Vous écoutez
RMC. RMC, 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous. Très très heureuse de vous retrouver en ce lundi matin. On est ensemble jusqu'à 9h, lundi 16 février 2026. Écoutez bien ces mots. L'ultra-gauche était à la manœuvre de ce lynchage. Les mots sont exprimés par le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, après la mort de Quentin. Quentin, ce jeune militant nationaliste, 23 ans, décédé ce week-end à Lyon. LFI et le groupe antifasciste La Jeune Garde sont pointés du doigt. Qui sont ces groupuscules? Le spécialiste des radicalisations politiques, Jean-Yves Camus, sera en direct dans 10 minutes. Et puis j'attends évidemment vos réactions et vos témoignages. Le gouvernement a-t-il tardé pour dissoudre ce groupuscule, La Jeune Garde? Et en même temps, ce groupuscule, il a été fondé par un homme qui aujourd'hui est député, élu de la République. Alors, est-ce que l'État a failli face à ces dérives violentes? La question de la violence, d'ailleurs, aujourd'hui en politique, je poserai la question à la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon, à 8h30, mais je vous la pose aussi à vous. Est-ce que vous craignez des débordements et une montée de la violence? Je vous attends pour réagir au 32-16. Et puis, la France est sous l'eau. La Gironde et le Lot-et-Garonne, vigilance rouge encore pour des crues, des habitants évacués. L'Ouest et le Sud-Ouest, touchés par la montée des eaux. Est-ce que vous faites partie de ces sinistrés? Vous surveillez les cours d'eau autour de chez vous, de très près. Venez donc vous aussi témoigner. 32-16, bien sûr, ou le WhatsApp d'RMC, 0612 424. Tous les records sont battus. L'hydrologue Emma Aziza sera d'ailleurs avec nous à 7h40 pour qu'on essaie de mieux comprendre cette France sous l'eau. Dans un instant, le journal de 7h. Mais tout de suite, la météo. Anthony Kaczmarek, triple vigilance, donc je le disais aujourd'hui, pour forte crue, pluie et avalanche.
Exactement, 23 départements au total en vigilance, 21 en orange, 2 donc en rouge dans le sud-ouest pour les crues. On surveille surtout dans les Pyrénées les fortes pluies en plaine. La neige va fondre en dessous de 2000 mètres avec donc ce fort risque d'avalanche. Risque d'avalanche marqué aussi dans les 3 départements des Alpes du Nord. Le temps sera encore pluvieux aujourd'hui du sud-ouest au Massif central et à l'Auvergne-Rhône-Alpes. Beaucoup de neige jusqu'à 50-60 cm à haute altitude en montagne et puis ailleurs un temps changeant. Des nuages, quelques éclaircies et de fréquentes averses, parfois orageuses, au nord de la Seine, avec du vent. Mais les températures remontent, ça y est, c'est le redoux, avec cet après-midi entre 7 et 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 18 sur la moitié sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
Bon réveil à tous, il est 7h, passé de 1 minute et c'est l'heure du journal.
RMC, Apolline Matin.
RMC, le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. L'ultra-gauche ciblée par Laurent Nunez à la manœuvre, selon le ministre de l'Intérieur, après la mort d'un militant nationaliste lynché la semaine dernière à Lyon. Nous serons sur place dans ce journal alors que le parquet doit faire un point sur l'enquête cet après-midi. Encore un réveil, les pieds dans l'eau ce matin au bord de la Garonne pour des centaines d'habitants qui redoutent le retour des précipitations cette semaine. Et le 15 de France, bien parti pour le Grand Chelem après sa victoire écrasante hier face au Pays de Galles, 54 à 12.
Les questions nombreuses ce matin après la mort de Quentin à Lyon.
Tabassé à mort jeudi en marge d'une conférence de l'eurodéputé Rima Hassan, l'étudiant d'extrême droite âgé de 23 ans, a succombé à ses blessures samedi à Lyon ce matin en direct pour RMC. Julie Bro du service police-justice RMC, vous suivez cette enquête qui progresse. Un point sera fait dans l'après-midi par le parquet de Lyon et selon le ministre de l'Intérieur, Julie, l'ultra-gauche est manifestement à la manœuvre. C'est ce qu'a dit Laurent Nunez sur France 2 hier soir.
Le ministre de l'Intérieur a notamment pointé du doigt la possible implication de la Jeune Garde, un groupe antifasciste dissous en juin 2025 et qui a été mis en cause par le collectif Némésis, lui proche de l'extrême droite. Alors à ce stade, un tel lien n'a pas été établi par le parquet de Lyon et qui a en revanche assuré avoir recueilli, je cite, des témoignages significatifs pour permettre l'identification des agresseurs de Quentin. En parallèle, l'analyse de la téléphonie, mais surtout celle de plusieurs vidéos amateurs et des caméras de vidéosurveillance ont permis aux enquêteurs de comprendre l'enchaînement des faits. Et sur les images, on aperçoit 3 jeunes identitaires, dont Quentin, se faire passer à tabac par une quinzaine d'individus cagoulés et pour certains munis de barres de fer. Des jeunes qui doivent encore être tous formellement identifiés et localisés. Leur interpellation prochaine, selon Laurent Nunez, permettra alors de confirmer ou d'infirmer leur appartenance à une mouvance d'extrême gauche.
Julie Brault, envoyée spéciale à Lyon pour RMC, l'affaire prend donc une tournure politique avec dans le viseur la France insoumise, ciblée de toutes parts et contraint Sonia Gobry de se défendre.
À l'unisson, les insoumis ont rapidement condamné la mort du jeune Quentin, mais c'est loin d'être suffisant pour éteindre les critiques. Leurs adversaires les accusent de brutaliser les débats et donc de créer un terreau fertile à ce déchaînement de violence. En meeting hier, Jean-Luc Mélenchon s'est défendu.
J'ai dit des dizaines de fois que nous étions hostiles et opposés à la violence.
Une partie de la classe politique maintient et cible Raphaël Arnaud, député insoumis et cofondateur de la Jeune Garde. L'enquête devra le déterminer, mais des témoins affirment avoir reconnu plusieurs membres du groupuscule antifasciste lors du drame. Jean-Luc Mélenchon, lui, réfute toute responsabilité de LFI.
Nous n'avons rien à voir avec cette histoire. Et ceux qui nous accusent sont des calomniateurs. Et où était passée la police, s'il vous plaît ?
Sur la défensive aussi, Manuel Bompard accuse sur LCI la droite et l'extrême droite de souffler sur les braises.
Vous avez aujourd'hui une partie du spectre politique sur la base d'accusations mensongères visant à impliquer la France insoumise dans ce drame qui cherche à faire dégénérer la situation et à transformer le débat politique de notre pays dans une forme de guerre civile.
Il en veut pour preuve la dizaine de locaux LFI vandalisés ce week-end.
Sonia Gobry, service politique RMC, notait qu'hier plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées à Paris devant l'université de la Sorbonne en hommage aux militants nationalistes.
Et essayer de comprendre justement cette question de la radicalisation et de la violence ultra-droite, ultra-gauche. Le politologue Jean-Yves Camus, co-observateur des radicalités politiques pour la Fondation Jean Jaurès, est avec nous juste après votre journal, Thibault, pour essayer de mieux comprendre.
Il est 7h04, vous écoutez RMC. La vigilance rouge au cru maintenue ce matin en Gironde et dans le Lot-et-Garonne. Cela devrait se poursuivre jusqu'à au moins demain. Après le passage de la tempête Niels, la calmie de ce week-end n'aura été que de courte durée. Les précipitations vont reprendre sur ces deux départements, ainsi que sur une bonne partie de l'Ouest. Une vingtaine d'autres départements de la Bretagne à la Méditerranée restent en vigilance orange, puis redoutés par les habitants vivant à proximité de la Garonne. Le fleuve est déjà sorti de son lit, alors faut-il rester ou partir ? Luc Allobert est allé à la rencontre de sinistrés à la Réole, qui est en Gironde.
Faute de bottes, Rabat a attaché des sacs poubelles autour de ses chaussures pour se protéger des 10 cm d'eau dans sa maison. Il préfère relativiser.
On a l'électrique, on a le gaz, on a le chauffage, on a tout, c'est ça l'essentiel.
Il prend même le temps d'aider le voisinage.
Ouais, j'ai cuisiné pour le quartier, pour le voisin. Franchement, on est bien.
Rabat dort à l'étage, à l'abri de l'eau, et pour lui, pas question d'évacuer.
Ouais, attaché à la maison, attaché à les voisins. Si vraiment il y a pire que ça, on va partir. Mais pour le moment, on est là.
Rester chez soi malgré la montée de l'eau, c'était aussi le plan de Mathurin.
On s'était organisé pour se préparer à manger tant qu'il n'y avait pas l'eau qui était dedans, se préparer une glacière. On a pique-niqué à l'étage.
Mais après la rupture d'une digue, l'eau est montée bien plus vite et plus haut que prévu, presque un mètre au rez-de-chaussée. Alors il a appelé les pompiers pour évacuer.
Ah ben là, par la fenêtre, le bateau, il s'est mis contre, ils ont mis une échelle et je suis descendu en suivant, ils ont fait passer les bagages et voilà.
Il attend maintenant que l'eau se retire pour constater les dégâts, mais ses espoirs sont minces.
Ça va durer plus de 2-3 jours avant qu'elle descende, si elle ne remonte pas entre temps.
Car les fortes pluies, elles, se poursuivent, la crue pourrait même repartir dès demain, alerte le préfet de Gironde.
Et notez que 45 000 foyers restaient toujours privés d'électricité hier soir, selon Enedis. Retour à la case départ pour le texte sur la fin de vie examiné en seconde lecture à l'Assemblée nationale après son rejet au Sénat la semaine dernière. C'est le texte voté par les députés en mai 2025 qui sera débattu ce soir. Et puis tenter de renouer le dialogue, objectif d'un déplacement de 2 jours pour Laurent Nunez en Algérie, OQTF, collaboration sécuritaire, terrorisme ou encore la situation du journaliste français Christophe Glaise emprisonné en Algérie. Plusieurs sujets seront donc sur la table du ministre de l'Intérieur en Algérie.
RMC 7h07, le 15 de France, seul leader du tournoi des Six Nations ce matin.
Les Bleus impressionnent avec 13 essais marqués depuis le début du tournoi, 8 hier face au Pays de Galles, victoire 54-12. Les hommes de Fabien Galthié enchaînent un deuxième succès dans le tournoi, seule équipe invaincue, poursuivent leur opération Grand Chelem. Quoique, mieux vaut rester prudent dans les rangs tricolores. Wilfried Tampillon tente de calmer le jeu.
Oui, quand on parle de voie royale vers le Grand Chelem au sélectionneur Fabien Galthié, sa réponse est tout autre.
On peut pas empêcher d'en parler. Je crois que nous, la voie, là, c'est on rentre à Marcoussis et on se prépare à Marcoussis. Et après, on ira à Lille. On nous attend un rendez-vous solide face à l'Italie. Voilà, c'est notre long terme.
Les Français ont fait naître un espoir, ils le savent. Ils sont ambitieux, mais aussi prudents, comme le capitaine Antoine Dupont.
Je pense que c'est ce pourquoi on se prépare depuis le début du tournoi, pour essayer de gagner tous les matchs. Pour le moment, on est arrivé à gagner les deux premiers. Vous allez faire votre boulot, nous, on va faire le nôtre. Je pense qu'on a cette expérience sens-là aujourd'hui, de se dire que jusqu'à la dernière journée, le tournoi ne sera pas gagné. Aujourd'hui, on est en bonne position, oui, mais il nous reste 3 gros matchs. On voit l'intensité des matchs chaque week-end, donc c'est très dur de gagner tous les week-ends.
Et le message des cadres est passé chez des jeunes comme le centre Fabien Broboiry. Écoutez plutôt.
On va prendre match après match. Je pense qu'on ne va pas passer directement à la fin. C'est important de se concentrer semaine après semaine sur les équipes qui nous attendent, de ne pas en vue l'Italie et de faire de gros matchs.
Tout le monde pense donc à ce prochain match face à l'Italie. Ceux qui veulent s'enflammer devront attendre la toute fin du tournoi.
À retenir également la victoire de Toulouse, 13-9 hier soir sur la pelouse du Stade français en clôture de la 17e journée de Top 14. Et puis dernière épreuve de ski alpin aujourd'hui au jeu de Milan Cortina.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan Cortina.
Clément Noël remet donc son titre olympique en jeu sur le slalom première manche à 10h ce matin. On espère qu'il viendra exploser le record de médailles pour les Bleus aux Jeux d'hiver. Égal hier avec les 13, 14 et 15e médailles. C'est aussi bien que Sochi en 2014 et Pyeongchang en 2018 grâce notamment à la médaille de bronze en snowboard cross par équipe mixte. Accompagné par Léa Casta, Loan Bozzolo était fier à l'arrivée.
C'est magnifique ce qui se passe et on est hyper fier de ramener ça à la France. On a tous les deux notre médaille en bronze. C'est super lourd. C'est impressionnant tout ce qui s'est passé pendant ces Jeux Olympiques. On a réussi à sortir notre botte magique pour la finale et c'est magnifique. Les Jeux Olympiques, c'est fou. On la gardera toute notre vie, cette médaille. On s'en rappellera.
Et puis un mot de foot avec Lyon qui consolide sa 3e place, vainqueur de Nice hier soir, 2-0 en clôture de la 22e journée de Ligue 1.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h09 sur RMC. Écoutez, c'était hier soir sur France 2.
Ce qu'on voit aux images, c'est effectivement un lynchage. Quand vous portez des coups à un homme à terre, à plusieurs, vous ne pouvez pas ignorer que vous pouvez donner la mort en plus. Mais manifestement, c'est l'ultra-gauche qui était à la manœuvre, manifestement.
Manifestement, l'ultra-gauche était à la manœuvre de ce lynchage. Voilà ce que dit le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il réagissait au meurtre de Quentin, ce militant d'extrême droite à Lyon qui a été tabassé à mort par un groupe qui se dit antifasciste, selon les premiers éléments de l'enquête. Jean-Yves Camus est en direct avec nous. Bonjour. Vous êtes politologue, spécialiste des radicalités. La violence en politique est-elle à son maximum? On y revient avec vous dans un instant. Vous nous expliquez tout sur cette ultra-gauche, la jeune garde. Qui était-il? De qui s'agit-il? Combien de personnes? Et est-ce que vous craignez qu'il y ait d'autres affrontements? Cette question, je vous la pose aussi à vous qui nous écoutez. Appelez-nous au 3216. Est-ce que vous craignez que ça dégénère? Vos témoignages au 3216 ou sur le WhatsApp 0612 424 424. Il est 7h10, on se retrouve dans un instant.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h13 et vous êtes bien sur RMC et sur la télé RMC Story, canal 23. L'ultra-gauche pointée du doigt après le meurtre de Quentin, cet étudiant de 23 ans qui a été lynché à mort à Lyon. Le groupe dit antifasciste, la jeune garde, est notamment dans le viseur des autorités. Jean-Yves Camus est en direct avec nous. Bonjour. Politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités, vous étudiez l'ultra-droite et l'ultra-gauche depuis des dizaines d'années et j'aimerais comprendre avec vous de quoi il s'agit. Est-ce qu'on peut prendre le temps d'abord de comprendre si pour vous la violence en politique est au moment où l'on se parle à son paroxysme?
C'est une violence réelle, bien réelle, en augmentation par le nombre des affrontements qui existent, avec à la fois des faits divers qui heureusement n'impliquent pas mort d'homme, ni même le plus souvent de blessures graves et qui impliquent à la fois des groupes catalogués par les services de renseignement à l'ultra-droite et puis des mouvements d'extrême-gauche ou des mouvements dits antifa pour antifascistes sont dans une sorte de guerre pour la maîtrise de la rue, notamment à chaque fois que se produit un événement comme la conférence de Rima Hassan, de l'Institut politique de Lyon. Ce sont des déclencheurs possibles d'affrontements en marge de l'événement. Maintenant, cette violence, quand on la compare à celle qu'ont connue un certain nombre de pays étrangers, on fait souvent référence à l'Italie, par exemple, des années 70-80, aux fameuses années de plomb, on n'en est naturellement pas là. D'abord parce que les années de plomb italiennes se déroulaient sur fond de ce qu'on appelait la stratégie de la tension qui impliquait des acteurs même de l'État dans une sorte de jonction entre certains secteurs des services de renseignement et de l'ultra-droite. On n'en est évidemment absolument pas là.
Mais pour essayer de comprendre le lien, justement, pour la première fois, il y a une question qui est une question de lien avec un parti politique qui est aujourd'hui tout à fait représenté dans les institutions, en la figure de Raphaël Arnaud. Raphaël Arnaud, député La France Insoumise du Vaucluse, mais qui est également l'un des cofondateurs de ce groupuscule qui s'appelle donc la Jeune Garde, et dont, d'après nos confrères de Mediapart, l'assistant parlementaire aurait été présent dans le groupe qui, de près ou de loin, a participé activement ou pas au lynchage à mort de ce jeune. Cette question-là, qui fait qu'il y a un lien, effectivement, entre ce groupuscule et le parti politique LFI, est-ce que ça, c'est nouveau ?
Ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que lors de la mort de Clément Méric en 2013, donc Clément Méric, ce militant antifasciste qui avait été... qui était mort des suites de coups donnés par des skinheads d'ultra-droite. Là, l'implication est celle de groupuscules qui sont d'ailleurs immédiatement dissous. À partir du moment où, et je suis très prudent parce que nous aurons cet après-midi une conférence de presse du procureur de Lyon qui fera, je l'espère, un point précis sur cette affaire. À partir du moment où il est imputé à une personne ayant des fonctions auprès d'un parlementaire, on change totalement le registre. Je dis à une personne parce que d'abord la responsabilité elle est individuelle en droit.
Bien sûr.
C'est-à-dire que c'est l'individu dont il faudra voir s'il a participé physiquement à l'affrontement. Mais naturellement, si sa responsabilité est confirmée, ça ne manquera pas de rejaillir sur le parti politique auquel il appartient et pour lequel il travaille. Il faut signaler aussi qu'il y a quand même une procédure de dissolution de la Jeune Garde qui a été prononcée par un décret en Conseil des ministres du 12 juin 2025, et c'était Bruno Retailleau qui l'avait voulu. Cette procédure de dissolution, le groupe l'a contestée. Il se trouve qu'elle devait être examinée par le Conseil d'État cette semaine. C'est évidemment sans lien avec ce qui s'est passé à Lyon.
C'est le hasard du calendrier, mais
ça veut dire quand même que le sort de ce groupe est de toute manière en suspens, puisque si le Conseil d'État confirme sa dissolution, eh bien, il sera obligé de se plier.
Restez avec nous, Jean-Yves Camus. Je voudrais qu'on accueille le témoignage et la réaction de Karim qui nous appelle du Vaucluse. Bonjour Karim.
Bonjour à Pauline, bonjour Karim, monsieur.
Karim, je pose la question depuis ce matin, au fond, de savoir si vous faites partie de ceux qui craignent que ça dégénère, que la situation dégénère.
Et oui, Pauline, déjà, c'est inadmissible. Février 2026, on perd un de nos enfants, 23 ans. Tout ça pour le débat politique. Trop d'agressivité, manque de respect, pas de tolérance. Quand je vois hier Mme Chitirou sur le plateau de BFM TV, qui parle, elle dit le jeune, on n'a rien à voir, le jeune. Alors, je ne veux pas dire le prénom Quentin. Tout ça, c'est inadmissible. Moi, je suis inquiet, j'ai 2 ans, j'ai travaillé 30 ans à Marseille, dans les quartiers nord. Maintenant, je me suis retiré. J'ai 2 enfants qui sont étudiants à Marseille. Les élections, M. Alizio, lui, il veut diriger qu'une partie de la ville. Comment il va pouvoir faire tout ça? Comment il va pouvoir réunir les Marseillais? Moi, je suis inquiet. Et à part la suite, il y aura les élections présidentielles. Donc, il va falloir que tout le monde se mette autour de la table.
Comment on fait pour vivre ensemble, vous voulez dire, justement? Comment on fait pour vivre ensemble? Pour se réconcilier?
C'est inadmissible.
Dans ce climat de violence. Vous avez peur? Vous avez peur au quotidien, y compris pour vos enfants?
Ben oui, là, j'ai eu mon fils, il est à Marseille. J'ai dit, cette semaine, tu sors pas pendant les élections et compagnie. Tu restes à la cité universitaire, tu révises. Et tu sortiras à partir une fois que les élections seront passées.
Cette crainte, c'est très fort de l'entendre dans votre voix, Karim, un père de famille, Marseille. Vous dites, je me suis retiré en quelque sorte. Karim, je voudrais précisément que Jean-Yves Camus puisse réagir avec une question. Est-ce que vous craignez d'autres affrontements? On a entendu le président de la République qui a lancé un appel au calme. Était-ce nécessaire?
C'est absolument nécessaire, mais les appels au calme, c'est bien, mais ce qu'il faut avant tout pour faire redescendre la tension, c'est que les coupables de ce qui s'est passé à Lyon soient identifiés et déférés. Ça fera déjà descendre la tension parce qu'on arrêtera d'être dans les supputations permanentes qui circulent sur les réseaux sociaux, on arrêtera d'être dans l'invective qui est fondée sur des suppositions, sur des supputations, mais qui n'est pas étayée par des faits. Et quand on a des faits...
Est-ce que vous craignez qu'il y ait des représailles d'un groupe contre l'autre, d'ailleurs?
Écoutez, ça n'est dans l'intérêt de personne, même s'il y a des choses qui circulent sur les réseaux sociaux. Mais encore une fois, les services de renseignement suivent les deux mouvances comme le lait sur le feu et sont totalement susceptibles de détecter celles et ceux qui voudraient faire le pas de trop vers une généralisation de la violence.
Merci beaucoup. Merci Jean-Yves Camus. Vous êtes politologue, directeur de l'Observatoire des radicalités. Et il y aura cette conférence de presse, vous en parliez, du procureur de Lyon à 15h cet après-midi. Notez également qu'à 7h50, dans une petite demi-heure maintenant, la voix de droite, parce qu'on est lundi, ce sera Charles Consigny. Et précisément, il veut ce matin dénoncer cette, je cite, cette extrême gauche violente et archaïque. Rendez-vous donc à 7h50. Merci aussi à Karim pour son témoignage et sa réaction. Il est 7h21. Arthur Chevalier est rentré dans ce studio. Salut Arthur.
Bonjour Apolline.
Arthur, le sud-ouest touché par de très fortes précipitations, la Garonne qui bat des records de crues.
Ah oui, le fleuve déborde dans plusieurs communes, mais alors attention, c'est pas la première fois. Il y a 150 ans, Toulouse était déjà les pieds dans l'eau, c'était la première grande inondation moderne.
Et vous allez nous le dire dans un instant, Arnaud Demange va venir aussi pirater le face-à-face. Ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC, 7h21.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h23, on va remonter le temps comme chaque matin avec Arthur Chevalier. Arthur, deux départements sont toujours en vigilance rouge ce matin, la Gironde et le Lot-et-Garonne. Et dans ces deux départements, c'est le niveau de la Garonne qui inquiète le plus.
Oui, le fleuve a atteint des niveaux records ce week-end et la décrue va être très lente puisqu'il va encore pleuvoir dans les prochains jours. Par exemple, à Cadillac-sur-Garonne, en Gironde, le niveau de l'eau n'a jamais été aussi haut depuis le début du XXIe siècle.
Quand la Garonne sort de son lit, c'est toujours dévastateur.
Et oui, et c'est un phénomène très ancien. C'est connu depuis le XIIe siècle. À l'époque, le chef de la région, c'était le duc d'Aquitaine. Et ce duc a pris des mesures contre les inondations, notamment en construisant les premières digues pour essayer de contenir la montée des eaux.
Ça n'a pas empêché l'une des plus grandes inondations de l'histoire.
Non, il y a un siècle et demi, la situation est devenue complètement incontrôlable. Et la première victime, c'était la ville de Toulouse. Toulouse qui est traversée par la Garonne. Dans la nuit du 23 au 24 juin 1875, après des semaines de pluie torrentielle, les Toulousains se réveillent dans une ville totalement inondée, les pieds dans l'eau. En moins de 24 heures, le fleuve grimpe de 8 mètres et fait plus de 10 fois son niveau habituel.
Avec de très lourds dégâts matériels et humains.
À commencer par les ponts, presque tous les ponts de la ville sont recouverts par l'eau, emportés et détruits par le courant. Une vision d'apocalypse, l'eau s'infiltre partout, détruit tout sur son passage. Les habitants sont même obligés de se réfugier sur le toit de leur habitation pour échapper à la montée des eaux. Beaucoup mourront ensevelis sous les ruines. Un bilan cataclysmique, près de 1400 maisons détruites et plus de 200 morts.
Les autorités ont réagi?
Alors on était moins préparés qu'aujourd'hui, donc on va dire qu'on a fait ce qu'on a pu. L'armée est intervenue pour évacuer les blessés. Le président de la République, en personne, s'est déplacé. Et à l'époque, le président s'appelait Patrice de Mac-Mahon. Et pendant que le préfet lui montrait les dégâts de l'inondation, eh bien le président ne savait pas trop quoi dire. Et finalement, pour réconforter les Toulousains, il a fini par lâcher une phrase un peu ridicule. Cette phrase-là, voilà, il a dit « Oh là là, que d'eau, que d'eau !» Et le préfet lui a répondu une chose encore plus ridicule. Et encore, vous n'avez vu que le dessus.
C'est inouï, cette phrase qui est effectivement restée dans l'histoire. Ces inondations, elles ont aussi été une vraie prise de conscience.
Oui, déjà au niveau national, les Français se sont mobilisés. Ils ont envoyé de l'argent, du linge à la mairie de Toulouse. Des journaux ont organisé des souscriptions, les artistes aussi s'y sont mis. À Paris, on a monté des spectacles dont la recette était destinée aux sinistrés. Et d'un point de vue écologique, c'est un vrai tournant en France, un traumatisme, puisque c'est la première inondation moderne à faire autant de dégâts à Toulouse. On a notamment imposé de nouvelles normes de construction et on a intégralement repensé la ville pour faire face à de possibles désastres.
Merci Arthur. Arthur Chevalier, l'historien d'Apolline Matin. Notez qu'à 7h40, dans 20 minutes maintenant, l'hydrologue Emma Aziza sera dans ce studio pour essayer de comprendre cette France sous l'eau et aussi à quoi s'attendre dans les jours qui viennent. Et puis à tout moment, vous pouvez réécouter Arthur Chevalier. C'est sur le site rmc.fr ou sur l'application. Arnaud Demange nous rejoint à 7h26.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Bonjour.
Dans le
bonjour.
Face-à-face tout à l'heure, je reçois la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon.
Et on a tellement de questions à poser à la porte-parole du gouvernement, le cornu. La première étant... Alerte enlèvement. Sébastien Lecornu a disparu.
Oui.
Depuis qu'il a fait passer son budget, on le voit plus nulle part. Comme le charisme de Retailleau, Sébastien Lecornu est aux abonnés absents. Est-ce qu'il est encore Premier ministre? La dernière fois qu'il a été aperçu, il était au marché, avec un pull de la Halle aux vêtements, des sourcils non épilés et un cabas rempli de poireaux. Ses dernières paroles ont été « Bon, j'ai fini le budget. Maintenant, je vais me faire une bonne soupe de légumes. Allez, la folie !»
faut kiffer un peu dans la life. Wouhou! Déglingo!
Le gouvernement devrait être remanié cette semaine avec le départ d'Amélie de Montchalin et celui de Rachida Dati. Non, je reste à la culture et je t'emmerde! En tout cas, avec le départ d'Amélie de Montchalin. Et selon la presse, indiscrétion, Michel Fournier garderait son poste à la ruralité. Jack Lang va faire la gueule. Hein.
C'est dégueulasse. C'est honteux. On me vire de l'Institut du monde arabe alors que je n'ai rien fait. Et Michel Fourniret, lui, il reste au gouvernement.
De toute façon, Maud Bréjon me disait dans les couloirs, de toute façon, c'est que des tocards dans ce gouvernement. Mais ce serait que moi, je te virerais tous ces nuls. C'est bon, les panifous, les Fourniers, les Montchalin, que de la merde. Là, l'enfer devant leur gueule toutes les semaines. Il n'y a que moi qui tiens debout dans cette équipe d'abrutis. Ça reste entre nous, Apolline. Hein.
Tout à fait,
c'est
tout
du
tout
off. C'est
bien
du
sûr,
off.
Bien sûr, bien sûr. Vous faites du off maintenant.
Je fais que du off. Maud Bréjon viendra également porte-paroler au sujet des derniers propos d'Emmanuel Macron. Pour lui, la France insoumise est d'extrême gauche. LFI proteste. Et bon, ils se sont un peu mis dans la merde tout seuls. LFI, ils ont dit que Fabien Roussel, c'était Doriot. C'est-à-dire que le patron du Parti communiste, c'est un collaborateur néo-nazi. Sur la carte, ça te situe quand même assez loin vers la gauche, quoi. Parce que chez eux, quand tu émets l'hypothèse que peut-être il y aurait deux, trois patrons qui mériteraient pas d'être pendus avec les tripes de leurs enfants. Si tu dis ça, t'es un facho. Ça va vite, quoi. Et de l'autre côté, c'est pareil. Si tu oses émettre l'idée qu'il existe peut-être des musulmans qui ne rentrent pas tous les soirs chez eux tabasser leurs trois femmes à la batte de baseball parce qu'elles ont écouté du Céline Dion, tout de suite, t'es un islamo-gauchiste si tu dis ça sur CNews. C'est compliqué, la vie politique, hein, de situ. Et puis, vous parlerez enfin de la mort du jeune militant nationaliste Quentin à Lyon suite à une bagarre avec des militants antifascistes. C'est très compliqué, cette histoire. En plus, la version des événements change assez vite. Les insoumis se défendent d'être mêlés à l'affaire. Manuel Bompard a tweeté « LFI ne porte aucune responsabilité ». Raphaël Arnaud a dit que toute la lumière soit faite sur ce drame. Sébastien Delegu a dit « Je crois que les insoumis n'ont pas tapé, alors il faut que vous faisiez attention à ce que vous accusez notre parti qu'on n'a rien fait ». Voilà, et on essaiera d'y voir plus clair tout à l'heure avec Maud Bréjon à 8h30.
Arnaud Demange qu'on retrouve à 8h20. Il est 7h29, à tout de suite pour la météo de journal. 7h30, la France sous l'eau.
Oui, avec toujours 23 départements en vigilance orange pour crue, mais aussi pour pluie, inondation, pour avalanche dans les Pyrénées et sur le nord des Alpes. Et toujours deux départements en rouge crue, Gironde et Lot-et-Garonne, avec d'autant plus de nouvelles pluies aujourd'hui qui vont tomber sur cet axe sud-ouest, massif central, nord des Alpes. Beaucoup de neige à partir de 1500-2000 mètres en montagne. Et donc ce fort risque d'avalanche partout ailleurs. Un peu plus calme, en tout cas plus d'éclaircies, mais aussi un risque d'averse, parfois accompagné d'orages avec du vent. Les températures net redoux par rapport à hier, avec 7 à 12 degrés sur la moitié nord et 12 à 17 sur la moitié sud.
La météo sur RMC avec Penny Lane, l'outil qui réunit compta, facturation et compte pro.
Quand la compta va, tout va.
7h31.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. De nouvelles images de l'agression de Quentin. Les témoins appuient la thèse d'une implication de l'ultra-gauche dans la mort du militant nationaliste à Lyon. Les familles de patients veulent que les choses s'accélèrent enfin. La loi fin de vie et son aide à mourir reviennent à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Et après l'entraîneur, c'est le directeur du football de l'Olympique de Marseille qui démissionne. Mehdi Benassia a claqué la porte hier.
Mais d'abord ce constat, les enfants reçoivent leur premier smartphone de plus en plus tôt.
Entre 8 et 10 ans pour plus de la moitié d'entre eux, c'est un chiffre issu du rapport publié ce matin par la Fondation de l'Enfance. Malgré leur âge, un quart en profite pour alterner entre réseaux sociaux et jeux en ligne, Louise Salé.
Après l'école, Yasten, 10 ans, joue avec ses copains, mais en ligne sur le réseau social Roblox.
Des fois, je regarde YouTube et des fois, je joue à Roblox. Une heure, pas plus.
Et comme presque trois quarts des parents interrogés, Lorelai confie avoir un peu de répit quand son fils a un portable en main.
Ça permet d'être tranquille, mais aussi sur son téléphone, je peux mettre une appli qui me montre exactement quand il sort de la maison, quand il arrive à l'école, où il est sur la carte.
La moitié des parents se servent du smartphone pour géolocaliser leur enfant et ils sont 7 sur 10 à avoir installer un contrôle parental, ce qui n'empêche pas les écrans de s'immiscer dans de nombreux moments clés de la journée pour tous les enfants de moins de 15 ans. Joël Sikamois dirige la Fondation pour l'enfance.
Au petit déjeuner, par exemple, c'est encore 20% des enfants qui sont sur leur téléphone. Au moment du coucher, qui est quand même, on le sait, un moment à sanctuariser, notamment pour le sommeil, c'est 30% des enfants qui sont sur leur écran. Et ça va finalement réduire la capacité de l'enfant à apprendre et à se concentrer.
Paradoxalement, les jeunes approuvent en grande majorité le contrôle parental, ils sont même un tiers à vouloir davantage de temps sans écran à la maison.
Louis Salé pour RMC. Vigilance rouge crue maintenue ce matin dans le Lot-et-Garonne et la Gironde. 14 autres départements sont en orange. Notez aussi que 8 départements sont en alerte orange avalanche dans les Pyrénées et les Alpes du Nord. De l'autre côté de la frontière à Courmayeur en Italie, 2 skieurs ont perdu la vie dans une coulée hier, probablement des Français, disent les autorités. Dans l'affaire Quentin, le gouvernement accuse l'ultra-gauche. Elle était manifestement à la manœuvre lors du lynchage jeudi du militant nationaliste à Lyon. Ce sont les mots hier du ministre de l'Intérieur. De nouvelles images dévoilées par nos confrères de BFM TV semblent aussi abonder en ce sens, Ameline Lafchin.
Sur des vidéos filmées par des témoins, on distingue un homme, Quentin, gisant au pied d'un lampadaire après avoir été roué de coups. Maxime, habitant du quartier, a assisté à l'agression depuis son balcon.
J'ai vu tout un tas de mecs en noir. J'ai entendu crier « nazis, fachos, c'est des nazis, c'est des fachos, antifa ». Et après, en fait, j'ai vu Quentin, je pense que c'est Quentin qui s'était tabassé juste là. À 15 contre 1, c'était violent.
Une scène de violence dont a aussi été témoin cet autre habitant, alerté par les cris.
Coup de pied dans la tête, coup de poing. Après, ouais, coup de pied dans la tête quand je l'étais au sol. Ils voulaient l'éteindre, clairement. Ça allait vite, hein. Une fois, dès qu'ils ont vu qu'il était inconscient, ils sont tous partis en courant. Ouais. Lui, il s'est relevé de lui-même. Il perdait du sang du visage. Il repart en marchant, en titubant. Je dirais son décal, là, comme ça.
2 kilomètres plus loin, Quentin est pris en charge par les secours, souffrant d'une hémorragie cérébrale, avant de mourir samedi soir à l'hôpital.
Et de son côté, la Jeune Garde, ce groupe antifasciste dissous en juin, assure n'avoir aucune responsabilité dans ce drame. Le parquet de Lyon tiendra une conférence de presse à 15h. Il dit avoir reçu des témoignages significatifs. Laurent Nunez, attendu en Algérie aujourd'hui, un voyage important pour renouer le dialogue, dit le ministre de l'Intérieur. Le programme de ce déplacement en détail dans le journal de 8h. Après son rejet par le Sénat le mois dernier, la loi fin de vie revient à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, elle comprend la création d'un dispositif d'aide à mourir, ballotté depuis 2022 entre refus d'une large partie de la droite et report des débats à cause de l'instabilité politique. Alors Caroline Renaud, les familles de patients en fin de vie et les associations commencent à trouver le temps long.
Rongé par un cancer incurable, au bout de ses forces après plus de 10 ans de traitement, Renaud se souvient encore des derniers mois de vie de sa femme.
Elle est sous oxygène, elle ne veut pas souffrir.
Faute de loi sur la fin de vie en France, elle prend rendez-vous en Belgique, là où l'euthanasie est autorisée.
La dernière parole qu'elle fait au docteur, elle lui dit « vous me sauvez la vie ».
Alors pour les patients qui souffrent encore, Renaud demande aux députés de ne plus trop tarder.
Il faut penser aux malades, parce que ces gens ont le droit de partir, ça leur appartient.
Et même si le texte prévoit un encadrement très strict de l'aide à mourir.
Il faut légiférer, même s'il est imparfait, il faut bien commencer par un bout, quoi.
Même impatience du côté de l'association pour le droit de mourir dans la dignité, Jonathan Denis, son président.
Moi, je n'en peux plus de devoir être dans un pays qui abandonne certains de ses concitoyens sur le bord du trottoir. Ce temps long des débats, c'est du temps que certains malades n'ont plus. Des malades qui demandent qu'on évolue enfin sur la loi et qui le demandent depuis 40 ans.
Il craint de nouveaux amendements par centaines à l'Assemblée nationale. Il n'est plus temps de débattre, mais de faire, dit-il aux députés.
Caroline Renaud pour RMC. Il est 7h37 sur RMC. Le foot et ce nouveau coup de tonnerre à l'Olympique de Marseille, moins d'une semaine après le départ de l'entraîneur Roberto De Zerbi, autour du directeur du football, Mehdi Benatia, d'annoncer sa démission en pleine crise de résultats, Valentin Jamin.
Oui, ce départ assombrit un peu plus l'avenir à court terme de l'OM, car c'est Mehdi Benatia, même s'il a demandé à partir il y a une semaine, qui a initié les recherches du futur entraîneur pour Marseille ces derniers jours en tant que directeur du football et proposé notamment le nom d'Habib Bey. Ce dossier doit maintenant être géré par Pablo Longoria, le président en première ligne. Entre lui et Benatia, le courant ne passait plus vraiment. Le trio qu'il formait avec l'entraîneur Roberto De Zerbi a explosé en une semaine. L'avenir de Longoria est flou, sa réaction attendue. Il est contesté par les supporters qui l'ont visé sur des banderoles, tout comme le propriétaire Franck McCourt. Ce dernier a essayé de raisonner Mehdi Benatia et il va devoir se positionner, s'exprimer, puisque son club est sur un fil avant de se rendre à Brest dès vendredi.
Et ce résultat en Ligue 1 hier, la 13e victoire consécutive de Lyon, 2-0 contre Nice pour conforter la 3e place des Lyonnais. Et puis la France peut dépasser aujourd'hui son record de médailles aux JO d'hiver. Elle l'a égalé hier en portant son total à 15 et on a de bonnes chances, notamment sur le slalom homme dès 10h.
Et puis les courses, le quintet c'est à Vincennes aujourd'hui.
Départ 13h55, la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le 13 Competitivo et son outsider, le 15 Sandokan. Le 13 et le 15.
C'était le journal de Victor Pourchet. Il est 7h38 sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Des communes coupées du monde en Gironde et dans le Lot-et-Garonne, des habitants évacués jusqu'à 10 mètres de hauteur d'eau. Le sud-ouest et l'ouest de la France sont face à une crue généralisée. Bonjour Emma Aziza, vous êtes hydrologue. Le pic et le pire pourraient encore être à venir. Il faut s'attendre encore cette semaine à beaucoup de pluie et de vent. C'est ce que vous nous dites aussi dans un instant. Et vous qui nous écoutez, appelez-nous au 3216. Dites-nous si vous êtes sinistré ou inquiet de la montée des eaux. Je vous attends pour témoigner. Il est 7h30.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42 et vous êtes bien sur RMC et sur RMC Story. La France, sous l'eau, l'ouest fait face à une crue généralisée. Certaines communes en Gironde et dans le Lot et Garonne sont accessibles uniquement par barque. Des habitants ont été évacués encore jusqu'à tard hier soir et jusqu'à 10 mètres de hauteur d'eau. Bonjour Emma Aziza.
Bonjour.
Vous êtes hydrologue, vous êtes présidente du Mayan Resilience Center pour essayer justement de comprendre comment on fait face à cela. D'abord, le pic de crue, au moment où l'on se parle, il n'est toujours pas atteint.
Alors, en fait, il est atteint, mais il est en train de se déplacer tout au long du bassin. C'est-à-dire, faut imaginer une sorte de vague qui fait 10 mètres de hauteur et qui est actuellement en train de venir se propager. Donc, c'est une onde de crue qui atteint effectivement entre 10 mètres et entre 9,5 et 10 mètres de hauteur, suivant les cours d'eau, qui est en amont actuellement de Bordeaux et donc qui est en train d'arriver vers Laval. Sauf que de nouvelles pluies arrivant en amont, eh bien, ça va générer une seconde vague potentielle, et donc c'est cela qu'on craint principalement.
Est-ce que ça veut dire aussi qu'il ne faut pas attendre de retour à la normale avant plusieurs jours ?
Alors nécessairement, on est sur des crues de grands bassins. Il faut imaginer que la Garonne, c'est quand même une superficie importante. Donc oui, il va y avoir du mal à évacuer cette eau. On n'est pas sur un cas d'épisode méditerranéen où l'eau monte très rapidement, très violemment, mais en quelques heures, il n'y a plus d'eau. Là, il faut attendre quelques jours pour que ça monte et quelques jours pour que ça redescende.
Il y a un terme qui a été utilisé, que je viens donc de moi-même utiliser, qui est ce terme de crue généralisée. Pourquoi j'ai dit crue généralisée ? Parce que c'est Vigicru qui parle de crue généralisée. Ça veut dire quoi ? Crue généralisée.
Alors généralisée, ça veut dire que ça atteint l'intégralité du bassin versant, c'est-à-dire que tous les petits cours d'eau, tous les affluents sont actuellement concernés par des crues, et donc c'est la concomitance de l'arrivée de ces ondes de crues qui peuvent potentiellement générer encore plus de dommages, et surtout, le vrai risque, c'est qu'on a mis un peu partout des sortes de digues, enfin des renforcements pour essayer de protéger la population, qui en général se sent complètement, justement hors d'atteinte derrière ces digues, et c'est la rupture de digues qui risque de générer des problèmes et qui d'ailleurs le fait déjà.
Avec effectivement d'autant plus de violence que l'eau aura d'abord été retenue par ces digues. La Garonne qui déborde autant, c'est semble-t-il inédit au XXIe siècle, mais Arthur Chevalier nous parlait tout à l'heure de la très grande crue de 1875, il y a eu des précédents.
Bien sûr, 1875-1930. D'ailleurs, on parlait en 1930 d'un potentiel réchauffement climatique à l'époque parce qu'on avait une succession de grandes inondations sur la France. Donc, en hydrologie, c'est déjà un terme qu'on utilisait. Et donc, à l'époque, ensuite, ça a été complètement revu. Quelle est la différence entre hier et aujourd'hui ? Hier, c'était extrêmement violent et extrêmement meurtrier. Pourquoi ? Parce que les habitants se prenaient la crue de plein fouet. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on a des architectures électriques, on a des hôpitaux, on a aménagé derrière sur l'intégralité du bassin versant justement et artificialisé les sols en amont. Donc premièrement, on a une réaction qui est complètement différente à l'amont de ce bassin versant, qui fait que ça réagit beaucoup plus vite, beaucoup plus violemment, parce qu'on a modifié les sols. Et puis ensuite, derrière, vous avez beaucoup plus d'enjeux qui sont exposés. Mais ceci dit, la grande différence, c'est que on suit minute par minute l'évolution de la propagation de l'onde de crue. C'est-à-dire qu'on est capable d'évacuer les gens au bon endroit, au bon moment. Puis on est sur des crues qui sont quand même avec une dynamique moyenne. C'est-à-dire que, en général, ils engagent beaucoup moins de victimes. Par contre, on a toujours des vrais sujet derrière d'endommagement des habitats.
Des habitats et aussi évidemment des infrastructures. Gérald voulait témoigner avec nous du côté de Cauvignac en Gironde. Donc bonjour Gérald, vous êtes sur la route me semble-t-il. Est-ce que vous avez réussi à arriver jusqu'à Marmande ? Dites-nous ce qu'il y a autour de vous.
Alors pas encore. La première route que j'ai prise à partir d'un village s'appelle Cocumont en direction de Marmande.
Ouais.
Il y a plusieurs directions. Donc la direction de Meillan a été fermée. La direction de Sainte-Bazeille était fermée, la direction de Pont-des-Sables était fermée, donc impossible d'accéder à Marmande par ce côté-là, quoi. Alors, par contre, le nouveau pont de la Réole est ouvert.
Oui.
On peut traverser, mais de l'autre côté, par contre, on tombe sur un barrage. Quand on va aller du côté de Marmande, on tombe sur un barrage et la route est fermée.
Donc là, vous avez l'impression à chaque fois de vous heurter à, effectivement, c'est un labyrinthe, quoi.
Ouais, tout à fait. Ouais.
Qu'est-ce que vous voyez autour de vous?
Alors là, je suis en pleine campagne, j'ai réussi à trouver une route, à me mettre un peu en hauteur, donc du coup, je ne vais pas rencontrer d'eau. Mais c'est vrai que quand tu passais un peu plus bas, là, c'est de l'eau à perte de vue, quoi. C'est impressionnant, quoi.
Vous aviez perdu le courant, Gérald?
Alors, nous, on n'est pas passé par la crue, parce qu'on est plutôt un peu loin de la Garonne, si vous voulez.
Ouais.
Par contre, on a été impacté par la tempête.
Mmh.
Donc, à Odessa, on n'avait pas d'électricité, pas d'internet, pas de réseau. On est resté depuis jeudi, même mercredi soir d'ailleurs, puisque la tempête c'était dans le mercredi à jeudi, si je ne me trompe pas.
Et vous avez retrouvé l'électricité quand ?
Hier soir.
Hier soir, donc il y a eu quand même de nombreux jours, effectivement, et vous avez raison de le dire aussi Gérald, c'est ça, il y a eu la tempête, la crue, donc des vigilances de tous les côtés. Gérald, restez avec nous, mais je voudrais justement qu'Emma Aziza puisse réagir à ce point-là, c'est-à-dire qu'au fond, jeudi, c'était la tempête et le vent, et de nombreux arbres qui sont tombés aussi, parce que précisément, ils étaient fragilisés déjà par la question de l'eau.
Et par le fait qu'il y ait eu déjà beaucoup de pluie en amont, si on regarde les pluies depuis le début février, eh bien on a des quantités absolument astronomiques qui se positionnent sur l'intégralité du bassin de la Dordogne ou de la Garonne. Et donc on voit très bien que ce sont des secteurs qui étaient déjà fragilisés lorsque cette tempête est arrivée. Donc déjà ça remobilise les sols, donc ça accélère le risque de chute d'arbres. Ça accélère notamment eh bien toutes ces éléments qui vont ensuite venir directement dans les cours d'eau, générer des risques d'embâcle, des risques de...
D'embâcle, c'est aussi effectivement quand l'eau charrie tous ces troncs d'arbres.
Exactement,
tous ces
c'est des sortes de barrages temporaires.
Exactement.
Et donc, en fait, c'est tous ces risques accumulés qui, à un moment donné, se confrontent au fait que le sol est totalement saturé en eau, l'eau arrive, elle n'a plus d'autre possibilité que de ruisseler en surface. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de cette crue généralisée, c'est que l'eau arrive de partout, de tous les sous-bassins, et donc se rejoint sur la Garonne. Mais quand on parlait de Marmande, le pic de crue est déjà passé, il est déjà un peu plus loin. Et donc
cette onde de crue dont vous nous parlez qui se déplace et qui est effectivement renforcée encore par le fait qu'il pleut. Un mot justement là-dessus sur les jours qui viennent. Anthony, ça ne s'arrête pas. Hein.
Ça ne s'arrête pas avant vendredi. Vendredi, on pourrait espérer un répit avec le retour des hautes pressions, mais d'ici là, on pourrait avoir entre 2 et 4 semaines de pluie supplémentaires sur ces régions du sud-ouest avec deux facteurs aggravants. La neige qui fond aujourd'hui en montagne, donc qui vient alimenter les cours d'eau. Et puis le retour des grandes marées entre jeudi et vendredi, ces grandes marées vont freiner l'écoulement des cours d'eau vers l'océan.
On a vraiment l'impression de se retrouver effectivement piégé. Emma Aziza, un mot quand même sur les prévisions, parce que tout cela évidemment peut quand même au moins avoir un bénéfice, c'est que les nappes phréatiques vont être remplies. Est-ce qu'on peut espérer que l'on ne parle pas l'été prochain de la sécheresse?
Alors bien sûr qu'on peut l'espérer. En tous les cas, c'est un territoire sur la Garonne qui a été soumis à des sécheresses historiques. Donc on voit très bien que ce sont les extrêmes qui s'accentuent. Et donc, bien entendu, que ça va faire du bien à l'ensemble des nappes. Par contre, il faut toujours être vigilant. Moi, j'ai en tête l'année 2018 où on avait des crues généralisées sur toute la France. Pendant des mois, on n'en a fait que parler de précipitations. Et il a suffi de 3 semaines de canicule pour que tout bascule. Donc, on est sur des bascules extrêmement rapides, extrêmement violentes, avec une atmosphère qui est nécessairement plus chaude, qui amène des quantités de pluie un peu supérieures. Le réchauffement climatique n'a pas inventé le risque inondation. Il existe depuis la nuit des temps. Par contre, il est en train de le modifier légèrement, que ce soit sur les questions de Fontenival, donc d'apport secondaire, ou que ce soit derrière sur la manière dont les pluies vont arriver sur le territoire, plus violentes, différentes. Et d'ailleurs, peut-être un mot, 50% des personnes qui ont été inondées ces 5 dernières années l'ont été en dehors de zones inondables. Ça signifie bien que c'est la signature des pluies qui est actuellement en train de se transformer. Donc c'est beaucoup moins spectaculaire
que ce qu'on imagine. La géographie. Merci Emma. Merci. Aziza, hydrologue et présidente de Mayan Resilience Center. Merci. Évidemment, le mot résilience d'autant plus important aujourd'hui. Il est 7h51. Charles Consigny est rentré dans ce studio La Voix de Droite. On est lundi. Bonjour Charles.
Bonjour.
Vous vouliez revenir sur la mort de Quentin, étudiant lyonnais de 23 ans, vraisemblablement tué par l'ultra-gauche.
Oui, je pense qu'on a une extrême gauche violente en France et que cela fait exception dans le monde parce que nous sommes complaisants.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h51, à tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h52, dans un instant, Charles Consigny nous parlera de l'extrême gauche qui tue en France. Mais d'abord, le bonus Mathieu, une Française qui cartonne en Chine. Hélène.
Et avouez que vous êtes surpris d'entendre Hélène Rollès ce matin sur RMC. Mais figurez-vous qu'à 59 ans, si on l'a parfois un peu oublié chez nous, c'est vrai, Hélène Rollès est une superstar en Chine où sa carrière a continué après la série Hélène et les garçons. Eh bien, Hélène Rollès va se produire ce soir à la télé chinoise devant quelques 800 millions de téléspectateurs.
800 millions de téléspectateurs.
Avouez que ça fait rêver quelques chaînes de télé. Une soirée spéciale pour le Nouvel An chinois, suivie d'une tournée à l'automne. Hélène Rollès, qui par ailleurs chante aussi en chinois parfois. Vous entendez dans les yeux d'une fille écouter cette version à Shanghai, c'était il y a 10 ans. Et on apprend qu'en Chine, les chansons d'Hélène Rollès sont considérées comme des classiques de la chanson française et qu'elle jouit d'un statut d'ambassadrice de la culture française. Hélène, je m'appelle
Hélène. RMC, Apolline Matin. Voix de gauche. Voix de droite.
Et c'est lundi. Et comme chaque lundi, c'est la voix de droite sur RMC. Charles Consigny, avocat, grande gueule d'RMC. Bonjour Charles.
Bonjour.
Le monde politique a réagi évidemment fortement à la mort de Quentin. Quentin est mort, cet étudiant, donc nationaliste lyonnais, lynché à Lyon jeudi soir. L'ultra-gauche est pointée du doigt. Pour vous, la France a été trop complaisante avec ce que vous appelez une extrême-gauche violente.
Alors, je pense que le gauchisme est tel, de façon généralisée en France, dans les médias, dans le monde culturel, dans la magistrature, dans un certain nombre comme ça de strates de notre société, qu'effectivement on tolère, avec une certaine complaisance, une extrême gauche violente. Et je suis très choqué de voir que et de lire sur les réseaux sociaux, d'entendre sur certaines antennes que d'une part, il y a une forme de déni. Certains vont dire, on ne sait pas ce qui s'est passé. Ça n'a rien à voir avec Rima Hassan, avec sa conférence. On ne sait pas qui sont les auteurs de ce crime, alors qu'on a des vidéos et on voit bien quels groupuscules sont à l'œuvre, premièrement. Et deuxièmement, des gens qui disent, oui, mais Némésis, groupe auquel appartenait Quentin, c'est insupportable, tu vois bien, ils sont odieux chez Némésis, etc. Donc c'est Quentin qui meurt, mais on a tout de suite des bobos endoctrinés, si vous voulez, qui ne supportent tellement pas d'avoir la moindre contradiction qu'ils en viennent à attaquer le groupe auquel appartenait la victime.
On excuse l'extrême-gauche pour vous en France ?
Oui, je pense qu'il y a une complaisance. D'ailleurs, il suffit de voir comment on les appelle. Ils s'auto-désignent par le terme d'antifascisme. Je ne vais pas vous faire l'offense de vous ressortir cette citation de Churchill éculée, mais qui est quand même en l'espèce intéressante, qui dit que le fascisme reviendra s'il s'appelle antifascisme. Et donc, rien que leur laisser le bénéfice de cette dénomination me paraît être une forme de complaisance. Ce ne sont pas des antifascistes, ce sont des fascistes d'extrême-gauche. C'est le seul terme possible, et d'ailleurs, ils utilisent les méthodes du fascisme puisqu'ils procèdent à des ratonnades.
Vous pointez des médias, des intellectuels.
Oui, je pense que c'est assez large. Pour ne pas les citer, j'entendais par exemple hier chez nos confrères de France Info que le grand sujet, c'était non pas qui étaient les auteurs du crime, est-ce que par exemple le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud était ou non dans la bande qui a tué Quentin. C'est quand même quelque chose d'extrêmement grave et intéressant si on a le collaborateur parlementaire d'un député en poste qui a participé à un meurtre. C'est pas anodin. Mais ce qui intéressait France Info hier, c'était pas ça. C'était qui était Quentin ? Est-ce que c'était un militant d'extrême droite ? Qu'est-ce que Némésis ? Est-ce qu'il s'était singularisé par un parcours d'extrême droite ? C'était ça le sujet.
Alors ici, on est sur RMC. Vous pointez la France, mais ailleurs en Europe, on a vu des groupes extrémistes violents.
Oui, en Italie par exemple, on sait, et puis historiquement on sait d'ailleurs où ça a mené. Par exemple, en Italie, ça a été les brigades rouges, des enlèvements, des crimes, du terrorisme. Donc ça devrait nous renseigner, si vous voulez, ça devrait être un exemple.
Vous avez vu les mots de Jean-Luc Mélenchon, il exprime sa sidération, son empathie, sa compassion après la mort de Quentin ?
encore heureux qu'il l'ait fait, si vous voulez, encore heureux qu'il le fasse. Moi, je mets pas en cause Jean-Luc Mélenchon ou toute la France insoumise, je dis pas que c'est eux. En revanche, je pense que Rima Hassan est quelqu'un de dangereux, par exemple. Je pense qu'elle est antisémite, quasiment proclamée, et je pense qu'elle génère une certaine violence. Et d'ailleurs, l'audience qu'elle a dans les universités françaises, c'est quelque chose qui devrait nous inquiéter.
Merci beaucoup Charles Consigny d'avoir été avec nous, la voix de droite ce matin. Demain matin, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot. Rendez-vous donc tous les jours à 7h50. Dans un instant, le journal de 8h, le Sud-Ouest donc qui est sous l'eau. Nous serons sur les bords de la Garonne en Gironde dès le début du journal en direct. La météo, encore une journée agitée justement. Les intempéries, justement, elles ont été chiffrées par Emmanuel Le Chypre qui nous dit dans un instant combien tout cela va nous coûter. Il est 7h58, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. RMC. Apolline Matin.
RMC, Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. On va aller sur les bords de la Garonne dès le début de ce journal ce matin sur RMC. Pourquoi ? Parce que le Sud-Ouest est encore en alerte. Les pompiers redoutent une remontée rapide de la Garonne qui coupe du monde encore certains villages ce matin, vous verrez. L'ultra-gauche pointait du doigt donc après la mort d'un militant nationaliste à Lyon la semaine dernière. Le parquet doit prendre la parole dans la journée. Et nous irons aux Jeux Olympiques de Milan Cortina sur RMC, radio officielle, où on attend beaucoup des Français ce matin dans l'épreuve du slalom en ski alpin.
On se croirait à l'océan, voilà ce que dit le maire d'une petite ville inondée dans le Sud-Ouest.
Oui, tellement l'eau s'étend dans les champs en bordure de Garonne. Lucas Laubert, vous confirmez, vous êtes en direct de Langon ce matin pour RMC. C'est entre Bordeaux et Agen où la Garonne déborde, comme dans beaucoup de villes et villages où elle passe. Lucas, vous nous dites que c'est toute une partie de Langon qui est inondée.
Oui, les bords de Garonne sont tout simplement méconnaissables. Les caisses sont entièrement sous l'eau. Les panneaux de signalisation presque totalement submergés. Le fleuve pointe ce matin à 9,70 m à Langon. Une habitante me confie n'avoir jamais vu ça depuis la crue de 1981. De nombreuses maisons sont totalement inondées. Presque 2 mètres d'eau dans certaines d'entre elles. La galère sur les routes aussi. Ponts coupés, routes barrées. J'en ai fait l'expérience ce matin. Presque une heure de détour simplement pour traverser le fleuve. De petits embouteillages se forment même dans certains villages avec les nombreux automobilistes désorientés. Et tout cela ne semble pas près de s'arranger puisque depuis hier et encore en ce moment sous mes yeux, la pluie tombe sans discontinuer. Vigicru prévient, si un petit pic a été atteint hier, l'eau va reprendre sa montée.
Lucas Laubert, en direct de Langon ce matin pour RMC. Ce matin, il y a la préfecture de Gironde qui met en garde contre les intoxications au monoxyde de carbone avec les utilisations d'appareils à combustion comme les groupes électrogènes ou les chauffages d'appoint. Et il y a l'eau qui monte aussi à Paris. Une partie des quais est fermée depuis hier soir dans la capitale, la Seine étant 2 à 3 fois plus élevée que d'habitude selon les derniers relevés de Vigicru. À Lyon, l'ultra-gauche est donc montrée du doigt après la mort du jeune militant nationaliste de 23 ans prénommé Quentin Rouille-Lecouste jeudi dernier dans des affrontements en marge d'une conférence à laquelle était conviée l'eurodéputée insoumise Rima Hassan. L'ultra-gauche est manifestement à la manœuvre, voilà ce que disait hier soir le ministre de l'Intérieur Laurent Nunez, comme l'avait dit un peu plus tôt dans la journée le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Julie Brault, vous êtes en direct de Lyon pour RMC ce matin où le procureur va faire un point sur l'enquête dans la journée pour peut-être donc lever les zones d'ombre.
Oui, un point presse très attendu à partir de 15h cet après-midi, au cours duquel le procureur devrait notamment détailler les témoignages significatifs recueillis par les enquêteurs ces derniers jours. Témoignages qui pourraient permettre, je cite, l'identification des auteurs directs des violences. En parallèle, grâce à l'analyse de la téléphonie et des caméras de vidéosurveillance, les enquêteurs ont pu retracer l'enchaînement des faits. Et d'abord, un premier affrontement à proximité de Sciences Po entre une quarantaine de jeunes de l'ultra-gauche et de l'ultra-droite. Et puis, dans une ruelle, à quelques mètres de là, un lynchage en règle contre 3 jeunes militants nationalistes identitaires par une quinzaine de membres de l'autre camp, des jeunes cagoulés et masqués qui ont violemment frappé Quentin à coups de pied dans la tête, comme l'atteste une vidéo témoin identifiée par la police. Et des images qui devraient permettre de remonter rapidement jusqu'aux auteurs de ces violences, identifiés par l'extrême droite comme des membres du groupe antifasciste La Jeune Garde, dissous en juin 2025. Une thèse qui, à ce stade, n'a pas été confirmée par le parquet de Lyon.
Julie Brault du service police-justice à RMC. La France insoumise hein, qui est mise en cause par la droite et l'extrême droite assure qu'elle n'a rien à voir avec cette histoire. Mais ce matin, Raphaël Glucksmann du mouvement Place Publique dit qu'il est, je cite, « impensable que la gauche cultive le moindre doute
sur une alliance avec la France insoumise. Voilà pour les conséquences politiques. On parlait du ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Il sera en Algérie aujourd'hui et demain. Un déplacement de 2 jours. Thomas Becker du service politique à RMC sur fond de tensions diplomatiques entre les deux pays.
Oui, Laurent Nunez veut déjà renouer le dialogue avec l'Algérie. Dans son entourage, voilà ce que l'on dit sur la situation que le ministre a trouvée à son arrivée en septembre. Aucun contact entre les deux pays. Tout était bloqué, une manière de se démarquer de la méthode du bras de fer engagée par Bruno Retailleau. Depuis des semaines, Laurent Nunez intime à ses services de reprendre les échanges avec leurs homologues algériens sur 2 dossiers sensibles, le terrorisme et la lutte contre le narcotrafic. À Alger, il sera bien question du retour en Algérie des ressortissants en situation irrégulière sur le sol français, mais le ministère de l'Intérieur se garde bien de fixer des objectifs chiffrés. Enfin, le cas de Christophe Glaize, journaliste emprisonné dont la France réclame la libération, sera bien évoquée. Mais là aussi, Beauvau prévient, il se peut que la visite n'aboutisse à rien.
Les débats sur la fin de vie et plus précisément ceux sur l'aide à mourir reprennent aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Le texte est de retour après son rejet au Sénat fin janvier. Autre thématique qui sera évoquée aujourd'hui, c'est cette proposition de loi des députés Ensemble, soutenue par le Bloc central et la droite, pour permettre aux commerçants d'utiliser l'intelligence artificielle dans leur lutte contre les vols. Et comment? Eh bien, via un système de vidéosurveillance qui repère les gestes suspects des clients, grâce donc à l'intelligence artificielle. Entre 2 et 3000 magasins en sont déjà équipés, mais il existe un flou juridique et l'idée est donc de le combler. Voilà à quoi ça ressemble ce système avec Célestin Bougère pour RMC.
Au fond de sa supérette, dans une petite salle fermée, la co-gérante a les yeux rivés sur les vidéos de surveillance.
Récemment, il y avait des jeunes qui sont venus, ils ont vidé carrément le rayon café.
Vous savez à peu près combien ça représente de pertes pour le magasin, ce genre de vol?
C'était 800-900 euros.
Par mois, vous savez à peu près, vous avez des chiffres?
Ça atteint les 5 000 euros par mois, 4 000-5 000 euros par mois.
L'aide de l'intelligence artificielle serait la bienvenue pour elle. Michel Mantelet tient lui un magasin à Cherbourg. Il a installé il y a 3 ans déjà un système de ce type sur ses caméras de surveillance.
J'ai une application en parallèle qui est sur mon téléphone. Quand l'IA détecte des gestes ou des postures ou des mouvements potentiellement de vol, je reçois des alertes. Le mois dernier, ça nous a permis de récupérer à peu près 300 euros de marchandises qui auraient été volées.
À gauche, les députés craignent de potentielles atteintes à la vie privée. À la sortie de cette supérette parisienne, Uber est partagé.
Ça fait flipper, c'est normal, c'est la technologie. Après, si c'est pour éviter de mettre quelque chose dans ta poche et de ressortir avec, je trouve que c'est bien. Si les commerçants ils se sentent plus à l'aise, moi ça m'impactera pas.
Certains commerçants disent ne pas avoir encore sauté le pas de l'IA à cause du prix et du manque de précision de ces équipements.
C'est la deuxième semaine qui commence aux Jeux Olympiques.
RMC, radio officielle des Jeux Olympiques de Milan-Cortina.
Et ça commence fort avec ce matin le slalom en ski alpin dans la station de Bormio. On vous y retrouve en direct, Léna Marjac, en direct sur place pour RMC. Les Français brillent cette saison dans cette discipline. Alors forcément, on les attend au rendez-vous.
Oui, 7 podiums cette saison en Coupe du Monde pour nos slalomeurs français, dont 3 victoires. Donc évidemment, nos tricolores sont attendus, notamment Clément Noël, le champion olympique en titre de la discipline. Alors il s'élancera avec le dossard 4. Comme en 2022 quand il s'était imposé à Pékin, on espère que ce numéro lui portera chance. Et la France peut compter aussi sur Paco Rassa, 27 ans, premier Jeux Olympiques, mais double vainqueur en Coupe du Monde cette année. Donc il arrive en pleine confiance. Et enfin, Steven Amier et Léo Anguenaud viennent compléter la liste de départ du slalom. Le ski alpin tricolore compte une seule médaille dans ces Jeux Olympiques avec l'argent de Roman Miradoli. C'est donc la dernière opportunité pour les hommes du ski alpin d'ouvrir leur compteur de médailles. Et pour ça, il faudra le faire sous la neige. Ici à Bormio.
Léna Marjac en direct de Bormio, donc pour RMC. La France en est à 15 médailles, record égalé. Il y en a 4 en or, dont celle des danseurs sur glace, Guillaume Cizeron, Laurence Fournier-Baudry, qui seront les invités exceptionnels du Super Moscato Show cet après-midi à 15h sur RMC. Nul doute qu'ils reviendront dans le Moscato Show sur la belle victoire des Bleus du rugby 54-12 au Pays de Galles hier, deuxième match du tournoi Destination. En attendant de les revoir contre l'Italie, ce sera dimanche. Les Bleus disent qu'ils refusent de parler du grand chelem, mais évidemment, on a le droit de ne pas les croire.
C'était le journal de Quentin Vinet, les 8h09. On va parler économie.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel Lechypre. Emmanuel, est-ce qu'on peut commencer à évaluer les conséquences économiques de ces catastrophes climatiques qui sont enchaînées depuis le début de l'année?
Alors, il y a d'abord le coût des destructions qui seront indemnisées par les assureurs, les dégâts sur les maisons, les magasins, les locaux d'entreprise, le mobilier urbain ou les espaces publics. Et la facture va être très élevée. Jamais les météorologues n'ont enregistré autant de crues sur une aussi longue période, jusqu'à 80 départements, plus de 150 rivières. Jamais les sols n'ont été aussi humides. Ajoutez à ça ça la tempête Niels. En gros, la France revit depuis janvier le même cauchemar que lors des inondations de 2016, mais sur une échelle deux fois plus grande, et que lors de la tempête Domingos de novembre 2003. Les premières projections tournent donc au bas mot autour de 2,5 de 2023, oui. C'est pas ce que j'ai dit.
Je crois que vous aviez dit 2003, mais...
N'importe quoi. Les premières estimations tournent au bas mot autour de 2,5 à 3 milliards d'euros, donc pour ce début d'année, avec au moins 250 000 foyers sinistrés, sachant que les indemnisations pour inondations, c'est en moyenne entre 10 000 et 14 000 euros par sinistre.
Donc ça, c'est les dégâts, mais il y a aussi l'impact sur l'activité économique.
Oui. Et là, ce sont les pertes d'activité pour les entreprises, hein, les usines paralysées, les livraisons qu'on ne peut pas effectuer, les surfaces agricoles qu'on ne pourra pas utiliser et cultiver, les loisirs qu'on ne peut pas pratiquer, les commerces qu'on ne peut pas fréquenter. À ce stade, on peut l'évaluer, cet impact, à au moins 0,1 point de PIB national. Le problème, c'est que si ça dure encore plusieurs semaines, eh bien, ça pourrait aller jusqu'à 0,2 point de PIB, soit 3 à 7 milliards de pertes d'activité, sachant que la reconstruction ne sera, elle, que très progressive. Et puis, il faut aussi s'attendre, sans doute, à un impact sur les prix, hein, les matériaux de construction, les produits agricoles. D'habitude, c'est un impact plutôt local, mais là, vu le nombre de départements touchés, ce sera peut-être aussi 0,1 point d'inflation en plus. Donc, moins 0,1 sur la croissance, plus 0,1 sur l'inflation.
Et puis maintenant, si on commence à se projeter sur le prix des assurances?
Alors, il y aura deux effets. Le premier, c'est la hausse moyenne des primes d'assurance. Là, on est sur une trajectoire de 6 à 8% par an et ça va continuer. C'est la dépense contrainte qui augmente le plus. Et puis, le deuxième effet, c'est des écarts de primes croissants entre les régions à risque et les autres régions. Les plus vulnérables, ce sont Provence-Alpes-Côte d'Azur, Occitanie, Hauts-de-France, la façade atlantique. Ça pourra même aller jusqu'au refus d'assurance dans certaines zones, particulièrement pour certaines maisons.
Merci, Emmanuel Le Chypre. Il est 8h12.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Dans un instant, Arnaud Demanche nous rejoint comme chaque jour à 8h30. Notez-le, mon invité dans le face-à-face, ce sera la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Je l'interrogerai évidemment sur la mort de Quentin. Quentin, militant nationaliste à Lyon, qui a été lynché à mort par, semble-t-il, des membres de la Jeune Garde ou d'un groupe qui se dit antifasciste. Juste après, il y aura Nicolas Canteloup. Nicolas Canteloup et ses imitations, c'est tous les jours face à Canteloup à 8h50 sur RMC. Il est 8h12, restez bien avec nous.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de Manche.
Et bonjour.
Il est 8h50 de Manche, c'est avec vous.
On parlait de la Saint-Valentin, on se demandait, est-ce que vous avez passé une bonne Saint-Valentin tous?
Oui.
C'était la fête de l'amour, vous avez fait des belles soirées en amoureux.
Moi, c'est tous les jours la
c'est
fête de l'amour.
C'est tous les jours. Oh, c'est tellement chou.
Si, alors,
bon, alors si c'est pas le cas, les amis auditeurs, sachez que ça ne veut pas dire que personne ne vous aime à la Saint-Valentin. Ça veut dire que personne ne vous aime tous les jours de l'année.
Voilà.
Et il faut se remettre en question. C'était beau, il y avait des inondations partout, c'était très pratique pour la Saint-Valentin. Certains sont allés à Venise, et pour d'autres, c'est Venise qui est venue directement à la maison.
Là, là, là.
En tout cas, il y en a un qui a pas dû passer une bonne Saint-Valentin, c'est Sturla Holmleigh Grade.
Ah oui, je pensais
vous,
bien
vous
là.
Savez, bah oui. C'est le nom d'une table basse Ikea, mais c'est surtout le nom du biathlète norvégien qui a avoué qu'il avait trompé sa copine devant les caméras du monde entier.
On était j'avais pas son nom.
T'es content de ta médaille, Sturla Holm? Et lui, j'ai trompé ma copine. La pauvre copine, quoi. Estelle Denis, notre collègue, l'a appelé tout de suite la fille en lui disant, t'inquiète Gudrun, je sais ce que tu ressens. Au bout de 15 ans, ça passe. Et il est en larmes à la télé, le type. Hein. Ça a changé la Norvège. Enfin, on n'imagine pas les Vikings chialer parce qu'ils ont trompé leur femme pendant un pillage. Oh, je suis un monstre. C'est tellement bizarre d'avoir fait ça. Personne n'était au courant en plus. Il n'y avait rien à assumer. Je veux dire, la vie sexuelle des biathlètes, bon, on s'entend un peu. Quoi. Les histoires de cœur. Bon, bah, qui lui a conseillé de faire ça? Il était en soirée avec ses potes. Qu'est-ce que je peux faire pour reconquérir Gudrun? T'as une idée, Björkensflug?
Il lui envoie des fleurs.
Non, dis-lui en mondiovision qu'elle est cocu, elle va se sentir valorisée.
Ah ouais, t'as raison, Flugelflick. Quel enfer, le pauvre.
Sans transition, Bruno Retailleau a annoncé sa candidature à la présidentielle.
Sans transition, c'est pas vrai, on reste dans le thème. Amour, orgasme et plaisir, voilà. Oui. Bruno Retailleau se lance. Lui, c'est un peu le François Fellman de la droite. À un moment, tu ne pouvais pas allumer la radio sans tomber dessus. Et maintenant, tout le monde s'en fout et rigole. Non, mais en plus, pas de chance pour lui. Son annonce de candidature, elle est tombée en même temps que les inondations, donc sur BFM. Bienvenue sur BFM TV, Bruno Retailleau, bonjour. Bonjour, monsieur Darré. Pourquoi j'ai décidé de me présenter à la présidente. Priorité au direct, pardon, je vous coupe, monsieur machin. On part à Montbubon-sur-la-Vierge, où l'eau est montée à 5 cm, rue du Colonel de Saint-Érythème. Lionel Top, vous êtes sur place. Est-ce que vous avez une analyse au top? Parce qu'il y a vraiment un Lionel Top à BFM.
Oui, écoutez, Guillaume, oui, je suis à Montbubon-sur-la-Vierge, où la rivière de la Vespasine a inondé les villes de Croutasse, Sassuinte, Razon-la-Reine, Tonglen-sur-Ménazo et Pignol-le-Fermier. Et écoutez, monsieur Darret, est-ce qu'on peut parler de ma candidature à la présidentielle? Mais vous êtes encore là, vous? Qu'est-ce que vous faites là? Alors, son équipe de campagne a publié des visuels tout le week-end. J'en ai vu passer un qui est adorable. Vraiment, c'est un vrai truc, hein. C'est une photo de Retailleau dans la savane avec un lion. Il a une chemise blanche ouverte et il y a marqué « Je ne mangerai pas des pommes comme Jacques Chirac, mais il faudra manger du lion ». Jamais une élection présidentielle n'aura été aussi importante que celle qui vient. Il y a un tweet qui accompagne cette affiche, c'est marqué « Petit trait d'humour, mais détermination très sérieuse ». Donc voilà, son équipe de campagne, c'est que des puceaux de 48 ans qui sont là.
« Hey les gars, vous venez dîner chez moi demain ? Je vais cuisiner des salsifis et un gratin de chou-fleur. Wouh ! Et ensuite, on cherchera des idées pour Bruno. Hey les mecs, j'ai racheté une affiche de campagne de Valérie Pécresse. On pourra l'embrasser avec la langue parce que j'ai fait un trou au niveau de la bouche. Si, comme ça, on pourra apprendre à rouler des pelles aux filles. Ça va être super.
Quelle campagne, ça s'annonce.
Oh mon Dieu, Arnaud, une boulangerie d'Île-de-France est citée dans l'affaire Epstein.
Oui, un commerce de Sceaux, dans les Hauts-de-Seine. En fait, Epstein demande des conseils en boulangerie. On lui répond en lui donnant celle-là. Et le type ajoute, tout est bon, y compris la baguette. C'est un code, j'imagine. Ça doit être l'enfer, hein. Depuis, pour ce boulanger, tous les pédos d'Île-de-France doivent débarquer chez lui. Bonjour, je voudrais une baguette pas trop cuite, hein? Pas un vieux crouton, pas trop cuite. Je vais vous demander de sortir, monsieur. Bonjour, madame. J'aimerais passer une commande pour l'Institut du Monde Arabe. Est-ce que vous vendez les petits écoliers? À ce sujet, le livre de Jack Lang, d'ailleurs, Ma vie avec Mitterrand, ne sortira pas comme prévu au printemps chez Gallimard. C'est des conséquences de l'affaire. Et c'est tellement dommage. C'est bourré d'anecdotes truculentes, comme la fois où j'ai présenté François Mitterrand à mon ami Epstein. Mitterrand lui avait dit « Voici ma fille cachée, Mazarine ». Et Epstein avait répondu « Ça alors, moi aussi j'en ai plein des filles cachées, à la cave, dans le grenier, dans la pool house, attachées au radiateur. Quelle répartie avait cet homme? Qui aurait pu prédire que derrière ce philanthrope se cachait un tel monstre? C'est bien simple, s'il n'avait pas été aussi généreux financièrement avec moi, je lui aurais dit ces quatre vérités. Quel courage il avait, hein. Allez, à demain.
À demain, Arnaud de Manche, comme tous les jours à 7h20 et 8h20.
Détendez-vous sur RMC avec Idrac Business School, une école du réseau compétences et développement.
C'est avec Jean-Paul qui nous appelle au 32-16 depuis la Charente. Bonjour Jean-Paul.
Oui, bonjour Apolline.
Et vous vouliez témoigner parce qu'autour de vous, je crois que la pluie, vous êtes vraiment dans le coin de la Charente, mais vous avez aussi été dans une partie des Landes.
Oui, non, mais j'ai ma maman qui habite en Chalosse, dans les Landes, et c'est juste, ça m'a fait un petit peu bondir, parce qu'on parle beaucoup à Gironde, l'inondation et tout ça. Mais il faut savoir qu'une partie des Landes, à Chalosse, il n'y a toujours pas d'électricité depuis vendredi dernier, hein.
Donc, on a effectivement, et vous l'avez entendu peut-être tout à l'heure, eu Gérald, un auditeur, qui disait qu'il n'avait récupéré l'électricité qu'hier soir. Au moment où on se parle, Jean-Paul, votre mère n'a toujours pas l'électricité?
Ah non, comme beaucoup de Landais, quoi. Donc voilà.
Non, mais c'est important de le dire. Et en effet, là, pour le coup, c'est pas les inondations, c'est aussi la tempête. Il y a toujours 45 000 foyers. Hein.
Voilà. Ah, et si, j'avais juste une autre chose à dire.
Allez-y, Jean-Paul.
Concernant l'hydrologue, ce qui est dommage, c'est qu'il n'aurait pas parlé des retenues collinaires et autres. Parce qu'en fait, toute l'eau, là, qui est en stock partout, elle va disparaître.
C'est-à-dire?
Et pour cet été, on n'en aura pas d'eau, si ça se trouve.
Disparaître où? Vous voulez qu'elle disparaisse?
Elle va aller.
Oui, vers la mer.
Oui.
Oui, effectivement. Alors d'ailleurs, je lui posais la question tout simplement aussi de la sécheresse, mais elle disait qu'il y a quelques années, après des très fortes pluies, il avait suffi de 3 semaines de canicule pour qu'il n'y ait plus d'eau. Vous aviez travaillé sur ce point-là, Mathieu, hein? Une réponse.
Oui, non, mais vous parlez des ce qu'on a appelé les grandes bassines, la possibilité de retenir de l'eau pour la garder pour l'été, c'est ça, Jean-Paul?
Oui, tout à fait. Ça, c'est très important.
Mais je comprends pas ce que vous dites. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y aura plus cette eau. Pourquoi est-ce que cette eau-là partirait?
Ah ben, c'est tout, elle va directement aller flab, les flabs, la mer, et puis en avant, quoi.
Mais donc, on peut la garder, non?
Mais non, parce que c'est le débat politique sur les grandes bassines comme à Sainte-Soline.
Ah, pardon, excusez-moi. Oui, je ne comprenais pas votre débat politique, mais en effet, ce que vous voulez dire, c'est que les méga bassines qui jusqu'à présent d'ailleurs n'ont pas été autorisées pour la plupart, effectivement, vous voulez dire on aurait dû les garder, les faire, et comme ça, elles auraient gardé l'eau.
Eh ben oui, c'est ça.
Voilà, ça y est, merci. Je l'ai, Jean-Paul, je l'ai. Merci beaucoup à vous, en tout cas. Et effectivement, Jean-Paul qui voulait appeler aussi pour dire que sa mère n'avait toujours pas d'électricité. Je vous précise qu'il y a toujours 45 000 foyers qui n'ont pas d'électricité. Mais là, c'est dû non pas au cru, mais à la tempête qui a sévi dans la nuit de mercredi à jeudi dernier. Et ils sont toujours privés d'électricité. Il est 8h23. Dans un instant, mon invité, c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement. Maud Bréjon, que j'interrogerai évidemment sur la mort de Quentin, ce jeune de 23 ans qui a été lynché à mort à Lyon. A tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Apolline de Malherbe.
Il est 8h29 et vous êtes bien sûr RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci d'être à ce micro ce matin pour répondre à mes questions. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Quentin est mort à Lyon. Ce jeune homme de 23 ans a été tabassé à mort en marge de l'avenue de Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Laurent Nunez parle d'un lynchage. Gérald Darmanin parle de discours politiques violents qui amènent à la violence physique. Quelle est votre réaction, vous, ce matin?
D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour sa famille et pour ses proches. Ce qui s'est passé est évidemment effroyable, résulte en toute vraisemblance d'un affrontement entre l'ultra-gauche et l'ultra-droite. Et donc je reprends les mots de Laurent Nunez, employé ce matin chez vos confrères. Il s'agit de toute évidence d'un lynchage et les images que nous avons toutes et tous vues sont absolument insupportables.
D'un lynchage politique ?
Je laisserai le procureur, vous savez, qui s'exprime
tout à l'heure
cet après-midi sur le sujet et sur cette affaire spécifiquement. La question qui nous est posée à nous, responsables politiques, c'est quels mots on peut employer, quels mots sont acceptables, quels mots ne sont pas acceptables, et qu'est-ce qui, dans nos paroles et dans nos actes, que ce soit à l'Assemblée nationale, lors des meetings, est de nature à encourager cette violence. Parce que le garde des Sceaux a raison. Quand on emploie des mots d'une telle violence, on ne peut pas s'attendre à ce que cette violence-là ne rejaillisse pas potentiellement dans la rue.
Le garde des Sceaux, Gérald Darmanin, qui a parlé de la France insoumise, il dit il y a une complaisance de la France insoumise pour la violence politique. Et au fond, il estime qu'ils font semblant de ne pas voir que les mots tuent, dit-il.
Faut appeler un chat un chat. La France insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Jean-Luc Mélenchon, il y a quelques mois, en meeting, expliquait que c'était un mouvement, je cite, « lié » à la France insoumise et que les membres de la Jeune Garde étaient ses camarades. C'est la France insoumise qui, en 2024, lors des législatives de 2024, a investi et fait élire un membre de la Jeune Garde.
Raphaël Arnaud.
Fiché S. C'est la France insoumise qui, la semaine dernière, le 11 février, dans un communiqué, demandait au gouvernement de revenir sur la dissolution de la Jeune Garde. Il y a donc, vis-à-vis du climat politique, du climat de violence, une responsabilité morale de la France insoumise.
Responsabilité morale évidente. De la France insoumise dans la mort de Quentin.
Une responsabilité morale de la France insoumise dans ce climat de violence exacerbé.
Il y a aussi la question de la responsabilité d'un individu qui aurait, d'après nos confrères de Mediapart, été présent au moment du lynchage du jeune Quentin. Nos confrères de Mediapart parlent de Jacques-Élie Favreau, c'est l'assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, le député du Vaucluse La France Insoumise dont vous parlez, lui-même cofondateur du mouvement La Jeune Garde. Jacques-Élie Favreau, donc assistant parlementaire de Raphaël Arnaud, dément être responsable de la mort de Quentin, mais il dit se retirer de ses fonctions le temps de l'enquête. Il y a donc au minimum une proximité entre les militants qui semble-t-il, encore une fois, tout cela devrait être confirmé ou non ce soir, à partir de 15h, par la conférence du procureur. Mais ils disent que les militants qui ont tabassé à mort Quentin, et ça ce sont notamment les amis de Quentin qui l'affirment, seraient des membres de ce groupuscule de la jeune garde co-créée par un député LFI. Est-ce que dans ce cas, il faudra des conséquences et lesquelles ?
Il y a des témoignages qui vont dans ce sens. Moi, je laisserai le procureur, encore une fois, en parler cet après-midi. Mais je redis ce que je vous disais tout à l'heure. Lorsque la France insoumise investit un candidat et fait élire un député membre de la jeune garde qui est un groupe d'ultra-gauche structuré, organisé autour de la violence, qui dispensait, avant qu'on prononce la dissolution, des formations pour ce type d'organisation. Quel message on envoie ? Quel message on envoie ? Et c'est en ça où je dis que la France insoumise a une responsabilité morale dans le climat ambiant.
Rima Hassan a-t-elle sa place dans une salle de cours d'université ?
C'est aux universités de le dire. Vous savez, moi je crois que derrière la question qui se pose pour nous toutes et tous, citoyens, c'est le choix qu'on fait dans les urnes. Parce que Rima Hassan, quoi qu'on en pense, et je n'ai aucune complaisance envers cette eurodéputée, de par ses propos, de par ce qu'elle véhicule, en particulier sur l'antisémitisme, je n'ai aucune complaisance vis-à-vis de la France insoumise et de ses députés. Mais il et elle ont été élus. Et donc, nous avons, nous, une responsabilité politique, c'est de les combattre dans les urnes. Et nos concitoyens, ceux qui, en tout cas, ont été amenés à voter pour eux, doivent regarder en face ce qu'ils sont réellement, derrière les discours, derrière les insinuations, la façon dont ils sont structurés, les femmes et les hommes qu'ils ont mis en avant. On a une responsabilité, on a tous une responsabilité lorsqu'on glisse un bulletin La France Insoumise dans l'urne.
Il y a la question de l'élection, il y a la question aussi de l'invitation qui a été faite et de l'autorisation qui a été donnée. À l'inverse, le directeur de Sciences Po Paris avait refusé à deux reprises la venue de Rima Hassan à Sciences Po Paris, par crainte, disait-il, de troubles à l'ordre public. Il a dû batailler pour cela. D'abord, le tribunal administratif a refusé son interdiction avant que le Conseil d'État finisse par dire qu'il avait effectivement raison de craindre des troubles à l'ordre public. Et les faits, semble-t-il, lui ont donné raison. Je vous repose la question, est-ce qu'une université doit inviter ou accepter d'inviter Rima Hassan?
On va encore une fois laisser l'enquête se faire, mais enfin, de toute évidence, on voit que lorsque Rima Hassan se déplace, lorsqu'elle s'exprime, notamment dans des universités, ça crée autour de cette expression un climat de violence, avec des forces de l'ordre qui sont mobilisées. Tout ça n'est pas anodin, tout ça n'est pas normal. Et donc, il faut s'interroger sur les invitations qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas.
Raphaël Glucksmann, chez nos confrères d'RTL ce matin, dit « Mélenchon n'ignore rien du discours de guerre de Rima Hassan ». Est-ce que vous considérez aussi aujourd'hui qu'il y a, autour de la personne de Raphaël Arnaud que vous avez mentionné, de la personne de Rima Hassan, un choix particulier comme une forme de provocation à la violence ?
Il y a un choix...
Le mot de guerre utilisé par Raphaël Glucksmann.
Il y a un choix d'encouragement à cette violence, tout du moins dans les mots. On prend l'exemple de Rima Hassan, on prend l'exemple de Raphaël Arnaud, Monsieur Glucksmann a pris, je crois, l'exemple de Thomas Porte. Il y en a d'autres. Ce qui se passe avec la France insoumise n'est pas anodin. Encore une fois, parlons de l'antisémitisme qui est véhiculé depuis notamment le 7 octobre. Enfin, tout ça est extrêmement grave. Et ensuite, j'entends Jean-Luc Mélenchon s'étonner d'être qualifié d'extrême-gauche. Mais enfin...
Donc pour vous, la qualification d'extrême-gauche, puisqu'effectivement c'est concomitant avec le classement qui a été fait et officialisé la semaine dernière par le ministère de l'Intérieur, de LFI désormais classé à l'extrême-gauche.
C'est un parti révolutionnaire, c'est un parti anti-système, c'est un parti qui encourage les groupes ultra-violents et notamment de l'ultra-gauche, c'est un parti qui s'en prend à l'autorité républicaine, qui défile sous les slogans de « la police tue ». C'est pas la gauche social-démocrate, Apolline de Malherbe, comment est-ce qu'on appelle ça si c'est pas l'extrême-gauche ?
Et pourtant, lors des législatives de 2024, Gabriel Attal, à l'époque Premier ministre, aujourd'hui patron du parti Renaissance, avait appelé à faire barrage au RN, même avec un bulletin LFI. Est-ce que vous referiez la même chose aujourd'hui ?
Alors, d'abord, ma position personnelle a toujours été claire. Dès le lendemain du premier tour des élections législatives, je me suis exprimée avec une parole simple, ni LFI ni RN, et Gabriel Attal a eu l'occasion de s'exprimer sur le choix qui a été le sien. Mais je crois que encore une fois,
a posteriori, vous estimez que votre position était la bonne.
Ah, j'ai toujours estimé que ma position était la bonne. On ne combat pas un extrême par un autre, on ne combat pas l'extrême droite en promouvant l'extrême gauche, tout simplement.
Donc pour vous, malgré tout, quand on regarde lors des législatives de 2024 et l'appel à faire barrage au RN, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui Gabriel Attal dirait la même chose ?
Ah, ça, il faudra lui poser la question.
Je le ferai.
Ah, il faudra lui poser la question. Je suis pas porte-parole.
Mais j'imagine que ces discussions, vous les avez entre vous.
Je suis pas porte-parole de Gabriel Attal. Et Gabriel Attal n'a aucune complaisance avec les valeurs de la France insoumise. Il a toujours été extrêmement clair, encore une fois, sur son rapport à la violence, sur son rapport à l'antisémitisme. Donc, ne laissons pas dire n'importe quoi. Il a fait un choix dans un moment exceptionnel. Je ne partageais pas ce choix, mais il a eu l'occasion de s'en expliquer. Et je crois, encore une fois, que les valeurs portées par Renaissance, portées par Gabriel Attal, sont extrêmement claires.
Pour les municipales,
pas de mauvais procès.
Pour les municipales qui viennent, vous diriez toujours la même chose. Vous n'appellerez
pas. Je dirais toujours la même chose.
S'il y a des second tours avec d'un côté la France insoumise, de l'autre le RN, vous n'appellerez à voter pour ni l'un ni l'autre.
Mais je ne peut pas combattre le Rassemblement National en faisant la promotion ou en appelant à voter pour un parti avec des relents antisémites et communautaristes. Ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et puis ensuite, les électeurs sont libres dans l'isoloir.
Maud Bréjon, le plan sur l'énergie a enfin été dévoilé vendredi. Le RN vous accuse un de l'avoir publié sans avoir vraiment consulté l'Assemblée, mais surtout il dit, et c'est Jean-Philippe Tanguy à ce même micro vendredi, qu'il y aura des conséquences sur les factures des Français. Il parle du prix du pétrole, je cite, le prix du pétrole, du gaz va augmenter de 50%.
Alors c'est faux, et les chiffres de M. Tanguy et du Rassemblement National sont bidons. D'abord, quand on veut maîtriser nos coûts, quand on veut maîtriser les factures, on produit chez nous et on maîtrise notre production. À l'inverse, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que 60% de l'énergie qu'on consomme provient effectivement du gaz importé, du gaz algérien, hier du gaz russe, du GNL américain, du pétrole provenant du Moyen-Orient. Ça équivaut à 60 milliards d'euros d'import par an. Ce n'est pas comme ça qu'on protège le pouvoir d'achat des Français. Et ensuite, il y a quelque chose qui est assez curieux dans le discours de Monsieur Tanguy, parce que quand on se prétend souverainiste, quand on prétend défendre la souveraineté de la France, on ne se range pas du côté des grandes puissances qui nous vendent le gaz, qui nous vendent le pétrole et qui en fixent le prix.
Alors, ce qu'il pointe du doigt, c'est aussi la question de l'éolien ou de l'alternative au nucléaire. Est-ce que là-dessus, vous estimez qu'il y aura des conséquences sur les factures?
Nous disons une chose très simple. Le nucléaire ne peut pas
couvrir énergétique, comme on dit.
Le nucléaire ne peut pas couvrir l'ensemble de la demande en électricité. Les prochains réacteurs verront le jour d'ici à 2038, donc il y a encore du temps et on a besoin de diversifier ce mix. On s'appuie sur les énergies renouvelables et on s'appuie sur le nucléaire. Toutes les études, Apolline de Malherbe, scientifiques, je pense au GIEC, je pense à RTE, expliquent qu'on a besoin des deux. Et donc, encore une fois, le choix, il est assez simple. Est-ce qu'on veut continuer à dépendre du GNL de Monsieur Trump ou du gaz de Monsieur Tebboune, ou est-ce qu'on veut produire chez nous et développer des filières françaises?
Est-ce que vous donnerez le chiffrage précis qui vous a conduit à un tel plan énergétique?
Bien sûr, et en fait, ce chiffrage, il est connu.
Parce que vous avez dit que les chiffres du RN étaient bidons.
Oui, et je vous explique pourquoi.
Pourquoi vous ne donnez pas les vôtres?
Monsieur Tanguy parlait de 300 milliards sur votre plateau, c'était je crois la semaine dernière.
Vendredi.
Dans ces 300 milliards, il y a 200 milliards qui sont de la rénovation, de l'adaptation au changement climatique des réseaux. Il faudra de toute façon le faire et c'est pas 200 milliards sur une année, c'est un investissement sur 20 à 30 ans. Donc il faut voir de quoi on parle. Quant aux 100 milliards qu'il alloue aux énergies renouvelables, c'est beaucoup plus compliqué à chiffrer que ça, puisque ça dépend des structures de prix, ça dépend de l'évolution du prix du marché.
Mais vous-même, vous avez bien fait des chiffrages. Enfin, je veux dire, le gouvernement a bien fait des chiffrages.
Évidemment,
pour en arriver à cette...
Je vous en donne par exemple un dont M. Tanguy ne parle jamais, c'est le coût des futurs EPR2, des nouveaux réacteurs. Vous savez qu'on a pour projet d'en construire 6. Le premier, d'ailleurs, la construction du premier à Penly a déjà démarré. EDF estime ce coût à 70 milliards. Voilà. Mais c'est un investissement.
Est-ce que c'est crédible parce que les EPR ont quand même jusqu'à présent toujours débordé de leurs coûts?
C'est un coût qui a été mis à jour, réactualisé, si je puis dire, il y a encore quelques mois de ça. Et donc c'est pas moi qui fais ce calcul. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, on est sur des investissements et il faut regarder la durée de ces investissements et la durée sur laquelle on étale ces coûts. On parle de encore une fois 15, 20, 30 ans.
Vous avez peut-être entendu les mots de Patrick Pouyanet, le patron de Total, emblématique patron français. Il dit il y a une forme de ras-le-bol des patrons français et je pense qu'on va l'exprimer. Vous faites face de plus en plus à une fronde des patrons français. Vous l'imaginiez ça, vous, macroniste?
Écoutez, si M. Pouyanet fait référence au budget, moi je redis ce qui est la réalité de ce budget. La fiscalité pour les entreprises...
Il parle effectivement du budget, il dit 2000. Ce n'est pas bien, je voudrais reprendre ses mots exacts, il dit ce n'est pas bien qu'à la fin, la variable d'ajustement du budget de la France, ça soit systématiquement la taxation des grandes entreprises. Il parle d'une surtaxe et d'une énorme erreur.
Alors, ce n'est pas une variable d'ajustement. Un budget, c'est faire des choix. Quel choix avons-nous fait? On a fait le choix d'une stabilité fiscale pour les entreprises entre 2026 et 2025. Les entreprises ne verront pas leurs impôts augmenter. Les commerçants qui nous écoutent, ceux qui sont à la tête de TPE, de PME, d'ETI, doivent savoir ce matin que leurs impôts n'augmenteront pas. Et ensuite, un budget, c'est faire des choix. Est-ce qu'on doit ou pas investir pour le réarmement militaire quand on voit ce qui est aujourd'hui le contexte international? Je pense que la réponse est oui. Est-ce qu'il fallait ou pas abandonner la suppression de 2 jours fériés qui n'étaient pas comprises par les Françaises et les Français? Je pense que la réponse est oui. Et donc tout ça nous amène à faire des choix. Et oui, il y a un effort exceptionnel qui est demandé à 300 grandes entreprises. Est-ce que c'est idéal? Non. Est-ce qu'on aurait aimé faire autrement si on avait eu une majorité absolue? Probablement. Mais en tout état de cause, on a construit ce budget avec, encore une fois, des compromis. C'est un budget qui appartient à l'Assemblée nationale, avec laquelle le gouvernement a travaillé et qui a amené les uns et les autres à faire des choix. Moi, je peux aller aujourd'hui dans ma circonscription en disant aux commerçants que leurs impôts n'augmenteront pas et je peux regarder mes électeurs droit dans les yeux en leur disant que leurs impôts n'augmenteront pas non plus.
Remaniement, cette semaine, vous restez. Hein.
Écoutez... Si vous avez l'information, moi je ne l'ai pas.
Au moment où on se parle, vous n'avez pas envie de partir en tout cas.
Écoutez, moi je dis une chose simple, il faut des femmes et des hommes, au gouvernement mais aussi ailleurs, aussi dans les partis politiques, qui travaillent aux urgences des Français pour aujourd'hui et qui ne se concentrent pas uniquement sur la présidentielle dans 14 mois. Voilà. Du reste, je n'ai pas d'informations à vous donner. Vous savez que c'est la prérogative de deux personnes, le président de la République
et Amélie de Montchalin, de fait, partiront d'ici la fin de la semaine, semble-t-il. Vous confirmez au moins le timing?
Oui. D'ici au 22.
D'ici au 22, puisque ce sera le début de la période de réserve
pour les
élections municipales. Et donc, ce serait important que ce soit fait avant pour que des expressions puissent être prises par ceux qui viennent notamment les remplacer. Philippe Juvin, au budget, ça vous paraît crédible?
Écoutez, encore une fois, je n'ai pas d'informations.
Qui est actuellement rapporteur du budget à l'Assemblée.
J'ai beaucoup de considération pour Monsieur Juvin, qui est par ailleurs un de mes collègues députés des Hauts-de-Seine. Mais je n'ai pas plus d'informations à donner. Je ne vous fais pas de la langue de bois. Je n'ai juste pas d'informations. C'est la prérogative du président et du Premier ministre.
Et sur la question, vous l'avez dit à l'instant, des partis, quand vous dites qu'il vaut mieux parfois qu'il y ait aussi au sein des partis ceux qui vont mener les batailles, toute la question, on sait quand Sébastien Lecornu est arrivé au pouvoir, il a dit qu'il ne voulait pas dans le gouvernement des gens qui aient en gros la tête ailleurs, c'est-à-dire notamment à la présidentielle. Quand vous entendez les mots de Gérald Darmanin, qui ne se cache pas d'avoir de l'ambition pour 2027, quand vous voyez de plus en plus, y compris autour du gouvernement, quelqu'un comme Gabriel Attal qui commence à parler aussi de ses ambitions, Édouard Philippe, les primaires à droite, ça commence à faire beaucoup de monde quand même qui pense à 2027.
Oui, alors les ambitions des uns et des autres sont légitimes. Moi, j'ai toujours tenu une position très claire. Il faut que les uns et les autres se parlent et il faudra que les uns et les autres, candidats, déclarés, putatifs, s'entendent. On parlait de la dangerosité de la France insoumise tout à l'heure. On aurait pu parler de celle du Rassemblement national. Moi,
vous
refuse.
Vous avez d'ailleurs dit voilà, que vous ne vouliez pas l'un ou l'autre.
Je refuse de laisser aux Français le choix d'un second tour entre la France insoumise et le Rassemblement national, entre Monsieur Bardella ou Madame Le Pen et Monsieur Mélenchon.
Mais donc pour ça, veut dire qu'il faut un candidat d'où à où.
Il faut un candidat unique dès le premier tour de la droite et du centre. C'est mon avis. Et donc il faut que de Renaissance aux Républicains, de Renaissance à ceux qui refusent l'alliance avec le Rassemblement National, en passant bien sûr par le MoDem, en passant bien sûr par Édouard Philippe, les uns et les autres se mettent dans une même pièce.
Mais ça va jusqu'où? Ça veut dire Bruno Retailleau, Édouard Philippe?
Sans quoi on laissera aux
Bruno
Français
Retailleau,
le
Raphaël
choix
Luchman.
D'un second tour entre Monsieur Mélenchon et Monsieur Bardella.
Je vous pose la question, ça va d'où à où?
Mais ça va de ce qui est pour moi aujourd'hui, en tout cas ce qu'on appelait hier le socle commun, qui est cet espace de la droite et du centre dans lequel on gouverne depuis 18 mois, depuis la dissolution avec Michel Barnier et avec celles et ceux qui ont été ou qui sont au gouvernement. Nous avons des ministres LR aujourd'hui au gouvernement. C'est bien la preuve que précisément pour protéger la France de la France insoumise et pour protéger la France demain du Rassemblement national, on arrive et on arrivera, en tout cas je l'espère, à s'entendre.
Merci beaucoup Maud Brigeon d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement, il est 8h47 et vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant, Nicolas Canteloup débarque avec son impertinence et son humour. Face à Canteloup, c'est tout de suite sur RMC.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Tous les jours, l'info revisitée par Nicolas Canteloup. Ce matin, Maud Brigeon, porte-parole du gouvernement, était mon invité. Emmanuel Macron tenait à lui dire un mot.
Oui, bonjour. Même sans mes lunettes, vous voyez, ça marche.
Oui, ça marche pas mal.
Vous voyez, ça s'appelle le charisme. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre autour de cette table. Écoutez, Maud Brigeon a parlé insécurité, je l'ai entendu. Elle a parlé violence, elle a parlé budget, mais elle n'a pas abordé tous les sujets. Elle a oublié un sujet le plus important. J'ai vendu 114 avions Rafale aux Indiens. Hein, et voyez, dès que je mets des lunettes de Top Gun, ça, voilà, je vends 114 Rafale. Et encore, je serais arrivé, la chemise ouverte, hein, sur un bronzage impeccable, je refourguais 40 centrales solaires aux Indiens.
C'est sûr. Vous êtes en route pour une visite d'État de 3 jours en Inde.
Oui, écoutez, je pense qu'on a beaucoup à apprendre de l'Inde et de leur culture. Souvent les Français, je les entends se plaindre d'être des vaches à lait, mais en Inde, ce seraient des vaches sacrées.
Ah oui.
Donc faire payer l'impôt français, c'est respecter les Français, c'est même quelque part les honorer.
Ah oui, on l'avait pas fait comme ça. Merci Monsieur le Président. Maud Brigeon, vous souhaitiez ajouter quelque chose? Tiens, vous revenez là, sur le remaniement à venir peut-être?
Oui, tout à fait. Nous avons entendu les Français souhaitent avoir au gouvernement des personnalités d'expérience, des poils. À ce titre, pour remplacer Rachida Dati et Amélie de Montchalin, nous avons pensé au gouvernement à des ténors de la politique, David Amiel et Catherine Pégard.
Catherine Pégard, vous voulez dire l'ancienne administrative du château de Versailles.
Voilà, Pégard, c'est ça, voilà. Ouais, voyez, vous la connaissez, voyez. Elle sera donc nommée à la culture, bien sûr, dès que Madame Dati aura décidé de son propre gré de quitter ses bureaux. Je lui ai d'ailleurs, à ce titre, envoyé un message ce matin pour lui suggérer donc d'entamer son déménagement au ministère de la Culture. Et très réactive, Rachida Dati m'a répondu. Elle m'a invité à me faire cuire le cul sur une grille de four.
Ah oui.
Donc, voyez, ça avance. Le dialogue n'est pas rompu.
C'est bon, c'est bon. Merci, Maud Brigeon. Tout de suite, on retrouve Pascal Pro pour les titres de l'actualité. Bonjour, Pascal.
Eh oui, bonjour, Apolline.
Vous vous sentiez mieux chez nous, hein, finalement.
Ah, bah oui, si, tout à fait.
Ah, bah, bien chez vous, hein.
Bonjour,
ça vous embête, hein.
Ma collègue Maud Brigeon. Eh oui, nous faisons le mode métier avec Maud Brigeon. Ah, oui. Maud Brigeon porte la parole du gouvernement actuel. Et moi, chaque jour, vous le savez, sur CNews, je porte celle du gouvernement qui suivra.
Oui.
Merci, bien sûr. Nous en parlions avec Thibaut Texer. Rien n'est encore joué. Aujourd'hui, on ne sait pas qui dirigera ce gouvernement. Le suspense, est-ce que ce sera Jordan ou Marine?
Ah oui.
Allez, c'est parti pour les titres. On commence bien sûr par un grand cocorico avec notre spationaute Sophie Adenau que l'on a envoyée dans l'espace. Que c'est beau, que c'est beau. Même si je ne me cache pas qu'à l'avenir, j'espère que ce sera plutôt des Soraya, des Malika, des Aïssatou que nous enverrons loin, très loin. Et puis vendredi, c'était les victoires de la musique. Le service public a donc récompensé, attendez, je lis sur ma fiche, Mega BBL et Dizzy's, voilà. Voilà. Non mais je ne connais pas, pardon Apolline, je ne connais pas. C'est, oui, même dans la musique, vous voyez, c'est le grand remplacement, pardon. Excusez-moi, je m'emporte. Alors qu'on attend de grands artistes à honorer, les Michel Sardou, Mylène Farmer, les Daniel Guichard, Alain Souchon. Non, pas Alain Souchon, non, pardon. Pas Souchon.
Ah bon.
Heureusement, il y a eu un moment magique, c'est vrai, un moment suspendu quand Nikos Aliagas a remis à Nana Mouskouri, la grande Nana, une victoire d'honneur pour ses 91 ans. Nikos, de grâce, parlez-nous, refaites-nous vivre, parlez-nous de ce moment suspendu. Ouais, salut Apolline, salut à tous, salut les loups. Quel honneur pour moi, c'est vrai, d'avoir célébré cet artiste majuscule, Nana, la grande Nana Mouskouri, 91 ans, 70 ans de carrière. Ça m'a bousculé, oui, bousculé. Moi qui
a l'habitude, à la Starac, de célébrer plutôt des artistes qui font 8 semaines de carrière. Nana, c'est quoi ? Nana, ce sont des chiffres. Au-delà de l'âme qu'elle porte, 160 albums, 2000 chansons et une paire de lunettes qui a sa signature. Un Velux devant chaque cueil. Mais l'autre star de la soirée, c'était Théodora, avec 4 récompenses. Sa musique est un mélange d'hyper-pop, de jazz, fusionné à du rap-rock et à de la funk afrobeat sur fond d'hyper-house, reggae, de pop. Oui. Elle est la seule à pratiquer cette musique. Et c'est génial. Comme ça, elle est sûre de gagner au moins dans une catégorie. Bien joué, bravo à toi, Théodo, à toi, Po.
À moi, Po. Merci, Nico. Nikos, on va parler rugby avec le sélectionneur du 15 de France. Bonjour, Fabien Galthié. Quelle belle victoire hier dans le tournoi des Destinations contre le Pays de Galles.
Je tiens à féliciter nos joueurs. Au-delà du résultat, la qualité du rugby proposé, la variété dans le jeu, tu vois, l'impact, il y a eu de la puissance, il y a eu de la force, de l'intensité. On a fait un très bon match, un match physique, un match référence. Je dis match parce que quand tu gagnes 54-12 contre l'adversaire, c'est que, en l'occurrence, les Gallois, c'est que tu l'as vraiment mâché, tu vois. Tu l'as déchicoté, mangé tout cru.
Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ce match, Fabien Galthié ?
Moi, je retiens la belle prestation d'Antoine, l'implication également de Fabien, l'ouverture du score d'Emilien, le jeu au pied de Thomas, les belles combinaisons entre Louis, Charles, Julien, Théo, avec Christelle, Valentine et Marie.
On ne connaît pas tous les prénoms des joueurs, hein. Ce serait peut-être plus simple de les appeler par nom de famille, non ?
Non, mais je te rassure, moi-même, je ne les connais pas moi-même. Ah, oui. Le rugby, c'est une grande famille, tu vois. Dans la famille, tu t'appelles par le prénom, tu vois. En tout cas, merci au président de la République, je tiens à le dire, qui nous a toujours soutenus. Et ce matin, il m'a envoyé un message. Bravo, Fabien Galthié, votre 15 de France, pour cette belle victoire face aux Gallois réfractaires.
Merci beaucoup, Fabien Galthié. On parle maintenant des JO 2000 en Cortina. Nelson Monfort, tiens, est avec nous. Bonjour. Grande première dans le sport du ski, c'est un Brésilien.
L'association
de ski qui a gagné le slalom géant.
Oui, tout à fait, ma chère Apolline. Effectivement, c'est cet athlète brésilien a dévalé la piste à plus de 100 km/h en chemise à fleurs, pardonnez-moi, en jonglant avec un ballon, tout en sirotant une caipirinha sur une musique de samba. Pardon, c'est une médaille d'or, certes, pardon, ma chère Apolline, mais est-ce vraiment du ski? On peut se poser la question légitimement.
Mais pourquoi vous dénigrez cette médaille d'or?
Mais enfin, Pauline, bordel de merde, mais tu as loupé un épisode ou quoi? Je ne couvre pas ces JO Milan Cortina alors que j'ai pourtant suivi 12 Olympiades. France Télévisions, m'allait abandonner comme une vieille chaussette, like a old socks. Je suis en ce moment depuis mon canapé, I'm live on my poltron et sofa. Alors ne comptez pas sur moi pour vous dire que ces JO sont fantastiques. Esta Olympica, c'est à una mierda.
Tous les jours, 8h50 et à tout moment en podcast. Dans un instant, les GG, quel est le programme ?
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les Grandes Gueules se préparent à débattre de l'actualité à partir de 9h sur RMC et RMC Story. On va bien sûr revenir sur la mort de ce jeune homme de 23 ans, Quentin, à Lyon. Avec cette question, l'ultra-gauche est-elle responsable de sa mort ? Débat avec Charles Consigny, notre avocat, la prof d'histoire géo Barbara Lefebvre et le cheminot Bruno Poncet. A tout de suite.